Ce jour-là, j'ai eu un immense choc, en fait. J'en ai eu un si grand que je n'en ai jamais parlé.
En fait, adolescente, je me sentais déplacée, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées.
En famille, en amour, au travail, en société, trouve-t-on jamais tout à fait sa place ? Ce sentiment d'être en adéquation avec soi-même, de se rapprocher de la personne que l'on a l'ambition d'être. Une carrière pertinente qui nous rend heureux, un entourage qui nous aime pour ce que nous sommes, une vie qui nous ressemble ou tout du moins nous trahisse le moins possible. Parfois, ce sentiment de cohérence arrive vite, parfois plus tard, quelquefois jamais. Le plus souvent, il se déplace par vagues. Je suis Marion Ruggieri et dans le podcast Les Vagues, un tout nouveau podcast de Elle, j'interrogerai des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi le moment où elles se sont senties déplacées. Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Elle débrief.
Elle débrief.
Élodie Petit
et Elisa Casson de Elle
décryptent l'actualité la plus futile
avec tout le sérieux qu'elle mérite.
Bonjour à tous et bienvenue dans Elle débrief, le podcast qui décortique l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite. Et aujourd'hui, entre les paillettes, les perruques, les talons aiguilles et le contouring, on va vraiment être dans un sujet très sérieux, très grave, tragique même. Daisy Draté, Jenny from the Block Notes, la Duchiasse, Picardy B, Mitzi Phyllis, ces drag queens ont des noms qui me font beaucoup rire et j'espère que d'ici la fin de cet épisode, j'aurai trouvé le mien. Je suis Élodie Petit, rédactrice en chef adjointe de Elle.fr et comme chaque semaine, je suis avec Elisa Casson, journaliste forme et beauté, qui s'y connaît en make-up mais qui est plutôt sur un look un peu nude plutôt que sur du contouring.
Ouais, du no make-up.
Salut
tu vois,
Elisa.
Salut.
C'est la nouvelle qui a remué la communauté drag et ses nombreux fans. RuPaul's Drag Race débarque en France, ça s'appelle Drag Race France et le premier épisode a été diffusé hier sur France TV Slash et sur France 2. Et si vous ne connaissez pas, s'il vous plaît, restez, croyez-moi, on va vous convaincre de regarder le show. C'est beau, c'est créatif, ça met en lumière les combats de la communauté LGBTQIA+, une communauté que l'on voit trop peu à la télévision. Mais surtout, surtout, Drag Race, c'est très drôle. Et je suis très fière de vous dire que le magazine Elle est partenaire de Drag Race France. Et quand bien même si on n'était pas partenaire, je ferais quand même cet épisode. Nos queens françaises s'appellent la Big Bertha, la Briochée, Ellipse, la Grande Dame, la Kaina, Camyug, Lolita Banana, Lova la Diva, Paloma et Soa de Muse. Et pour nous raconter tout ça, j'ai invité deux de ces queens du casting de cette première saison, Camyug et Paloma. Bienvenue.
Salut, Elle débrief.
Bonjour, ou comme on dit en français, chic chic chic.
Et évidemment, je n'ai pas oublié mon dernier invité. Vous l'avez entendu dans plusieurs épisodes déjà. On adore se débriefer Drag Race ensemble. Il officie parfois lui aussi en queen sous le pseudo de Régine Marquise des Anges. Et surtout ensemble, on a été sur le tournage de Drag Race France. C'est notre journaliste mode Mathieu Bobardelière. Salut.
Salut. Je vais prendre un abonnement. Décidément, je suis plus souvent ici que chez moi.
En 2009, le public américain découvre l'émission RuPaul's Drag Race. C'est la première saison, on sent que les moyens sont limités. Elle est tournée dans le garage de RuPaul, il y a un filtre absolument atroce. Les guests, on ne les connaît pas vraiment, mais le concept fonctionne. Elisa, dis-nous ce que c'est le concept de l'émission pour ceux qui ne connaissent pas.
Alors, est-ce qu'on peut être honnête et dire à tout le monde que...
Oui, on peut.
que encore hier, je n'avais peut-être pas vu un épisode. Alors, c'est faux. Souvent, je regarde Drag Race en sortant de boîte. Me demandez pas pourquoi, mais je n'ai jamais vu une saison entière. Donc hier, je me suis fait 4-5 épisodes. Donc je vais vous résumer un peu le concept et vous allez me dire Si c'est ça, si j'ai bien
sachant,
compris.
Sachant que ça fait quand même trois mois qu'avec Mathieu, on lui dit « Regarde, parce qu'on va tourner quelque chose. »
On demande à la seule qui a jamais regardé Drag Race de
voilà,
définir
moi,
Drag Race.
Voilà, c'est moi. Right. Oui.
Elle est dans le générique, donc je pouvais pas l'enlever de l'épisode.
T'es obligée d'être là. Bon alors, Drag Race, si j'ai bien compris, c'est un mix entre un concours de talent de la télé-réalité avec des drag queens. C'est bon, on y est bon.
C'est la catégorie.
C'est présenté et produit par RuPaul. Mathieu t'en parlera un peu plus tard. Je pense que c'est l'une des queens les plus connues. L'idée, c'est que RuPaul choisisse la meilleure et la prochaine superstar américaine du drag. À chaque épisode, les candidates doivent s'affronter dans des défis créatifs, humoristiques, des défilés.
Oui, c'est bien, c'est très bien, Elisa, c'est très bien, continue.
Elles sont jugées par un jury, composé évidemment de RuPaul, et les deux candidates qui ont le moins impressionné doivent se prêter au jeu du playback, que Mathieu sait faire à la perfection, la moins bonne sera éliminée.
Tout à fait.
Et la règle change quand c'est All-Star.
Oui, elles s'éliminent entre elles.
C'est l'inverse.
C'est les deux meilleures
c'est les deux qui éliminent la moins bonne. Alors, on est bon ou pas ?
Bravo, Elisa. Et ouais, RuPaul, bravo. Tu peux nous dire, Mathieu, en deux phrases, qui c'est pour ceux qui ne savent pas ?
Alors, écoute, RuPaul, c'est simple. C'est la plus grande queen américaine, voire même du monde. Elle s'est fait connaître à la fin des années 80 avec des caméos dans des clips plus que douteux, avant de rencontrer la gloire dans les années 90 avec Supermodel of the World, qu'on peut écouter. S'en est suivi un talk show, The RuPaul Show, avec une certaine Michelle Visage, qui ne doit pas vous être inconnue, mais également et surtout la franchise RuPaul's Drag Race en 2009, dont il est animateur et producteur. Aujourd'hui, RuPaul est considéré comme une figure primordiale de la visibilité LGBTQIA+, à travers le monde.
Wow. Merci Mathieu. Et donc, comme tu l'as dit, aujourd'hui, on en est à 14 saisons de la version américaine. Il y a eu des adaptations en Angleterre, en Australie, en Thaïlande, aux Philippines, au Canada, bref, partout. Il y a des émissions dérivées, tu l'as dit, Elisa, comme All Stars. Et on a vu des guests comme Lady Gaga, Christina Aguilera, Miley Cyrus, Ariana Grande,
Nicki
Jerry
Minaj.
Halliwell.
Moi, hier, c'était Nicki Minaj.
Nicki Minaj. Plus récemment, dans All Stars 7, on a eu Naomi Campbell,
Jennifer Lopez.
On a eu Mel C dans UK vs. The World. Bref.
Que du beau monde,
franchement, là-dessus.
Que des icônes queer.
Oui. Les queens, qu'elles aient gagné ou pas, elles deviennent des immenses stars. Elles font des tournées, elles performent aux quatre coins du monde, elles collaborent avec des grandes marques de mode et de beauté. Bref, félicitations Paloma et Cam, c'est une nouvelle vie qui s'offre à vous. Et avant de commencer à discuter avec vous, par souci de transparence pour nos auditrices, pourquoi vous et pas toutes les autres ? C'est important de le préciser.
Oui, c'est vrai.
Je suis la gagnante.
Déjà.
Alors, voilà, spoiler ! Bonne saison à tous.
on spoil rien. Parce que
déjà, on ne sait rien nous-mêmes.
Comme vous vous en doutez, on n'est pas dimanche matin en train de tourner cet épisode. On l'a enregistré un peu avant la sortie, donc nous-mêmes n'avons rien vu. Déjà, c'est compliqué pour nous de faire un podcast avec 10 queens. On n'a pas 50 micros. Et ensuite, Cam et moi, on s'était rencontrés un peu avant. Un an ou deux, je ne sais pas, par une autre queen qui s'appelle Alice Saiko, qu'on embrasse.
Exactement.
Qui nous a présenté. Et j'avais organisé un shooting de toi, Cam, dans Elle. C'était la première fois qu'une queen posait dans notre magazine. C'était en octobre 2021. Tu as été photographiée par
Jean-Marie
Perrier. C'est pas rien.
Chic.
Et ensuite, tu as intégré Drag Race. Il n'y a pas de lien de cause à effet par ailleurs. Hein.
Non.
C'est juste une chronologie.
La théorie du complot.
La théorie du complot de elle a fait Elle et maintenant elle est prise dans Drag Race, je pense.
Donc c'était évident pour moi de t'inviter ici. Et quand je t'ai parlé du podcast, je t'ai proposé des noms de queen. Et tu m'as dit, et j'ai trouvé ça hyper mignon, est-ce que tu peux inviter Paloma, c'est ma sœur.
Oh, et on aime la sororité.
Oui, Paloma, je me rappelais très bien de toi sur le tournage, donc c'était un grand
c'est
oui.
Mignon.
Et vous voilà ici, oui. Toutes les deux.
Quel success story.
C'est beau, hein. Bon, on
comme
peut arrêter
quoi,
l'épisode.
Le Valois Perret, mon Dieu.
Voilà,
alors qu'on
est...
se déteste.
On se déteste, vous verrez dans l'émission, on se vole nos wigs, on se casse les talons et on fait tout pour se mettre des bâtons dans les roues.
N'en dites pas trop tout de suite. On va parler de Drag Race, mais on va aussi parler de vous. J'aimerais que tous ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le drag ou qui en ont une image de type transformiste chez Michou dans les années 80 repartent avec un savoir un peu plus moderne, un peu plus nouveau. Ce que vous ne voyez pas là, c'est que Paloma et Cam sont out of drag, donc elles ne sont pas en drag, elles sont pas make-upées.
Si, je les appelle...
On s'entend, Cam est toujours
make-upé. J'ai un personnage en make-up.
Mais je vais les appeler par leur nom de drag, parce qu'on est là pour parler de ça.
Yes.
Alors, première question. Évidemment, je vais vous demander comment vous avez découvert le drag et comment vous avez commencé, Paloma.
Comment j'ai découvert le drag?
En 1980.
Ouais, c'était certainement... Ça devait être sous Giscard, déjà.
T'as quel âge, Paloma?
Je pense que c'était... C'était peut-être bien à la télévision, avec les émissions d'Ardisson, ce genre de trucs, où il y avait tout le temps des drag queens qui passaient.
Ah bon, le maillon faible de Laurence Boccolini.
Ouais.
Souvent, il y avait la spéciale drag queen.
C'est vrai. Il y avait les je sais pas si vous vous souvenez des... comment elles s'appelaient? Les sisters, je crois.
Let me be a drag queen.
Oh, voilà. Tonya.
Extravaganza, voilà.
Ça, c'était on l'écoute.
C'était un tube. Je pense que ça, c'est un des premiers trucs drag. Après, moi, j'aimais bien... j'adore le cinéma, j'ai grandi avec le cinéma. Donc, c'était... je pense que c'était Tootsie, Madame Doubtfire. C'est les premiers travestis que j'ai vus au cinéma. Voilà, je pense que c'est ça.
Et toi, Cam?
Alors, moi, c'est plus récent. Disons que, comme beaucoup de gens, j'ai commencé sans savoir que c'en était. Déjà petit, au carnaval de l'école, etc., je me déguisais en princesse. Ma mère m'aidait avec des foulards dans les cheveux, etc., pour faire des cheveux plus longs, etc. Elle me maquillait, donc très mignon. Mais j'ai vraiment découvert ça et commencé à en faire en ayant conscience que ça en était. J'étais en BTS, donc j'avais à peu près 18 ans. Et j'ai découvert ça sur à travers des émissions. À travers les réseaux sociaux et notamment RuPaul's Drag Race, et j'ai commencé à faire ça sur mes réseaux sociaux. Donc je disais souvent au début je faisais du drag et après je suis devenue une drag queen. C'est une différence entre faire et être. Mais ouais, j'ai commencé ça sur les réseaux parce qu'en France il n'y avait aucune drag queen qui faisait vraiment ça sur les réseaux. Et je me suis dit tiens, je vais commencer comme ça. Ça a bien plu et petit à petit je suis allé voir des vrais shows drag à Paris, notamment avec Cookie Cunty qui était la première drag queen française que j'ai vue de mes propres yeux vus. Et du coup, petit à petit, je me suis intégré au milieu et j'ai découvert qu'en fait, l'art du drag en général et pas seulement les looks et le make-up m'intéressaient, notamment le show, la performance et le lien de sororité qu'il y avait dans tout cet art-là. Donc ouais, j'ai découvert ça aux alentours de 18 ans et je me suis... c'était pas un déclic du jour au lendemain, c'était plus une... J'ai gravi les échelons petit à petit dans le milieu du drag pour découvrir ce que c'était.
Je sais pas trop comment j'ai commencé, moi. Parce qu'en fait, moi, je faisais du théâtre.
T'as une pause, non?
Oui, j'ai commencé puis j'ai arrêté. Parce qu'en fait, je faisais du théâtre à Clermont et je jouais beaucoup de drag, de trucs comme ça.
De rôle féminin.
Et quand je suis arrivé à Paris pour faire le cours Florent, les profs, j'avais des cheveux jusqu'au milieu du dos, j'étais habillé en... J'étais habillé comme il s'appelle, Philippe Candeloro. J'avais des chemises à
Lady
jabot.
Oscar.
Non, non, mais vraiment, je m'habillais comme un dandy du 19e. Et les profs m'ont dit, non, mais il faut que tu coupes tes cheveux, il faut que tu sois un peu plus viril parce que tu vas jamais avoir de rôle au cinéma ou au théâtre. Et c'est vrai qu'en casting, ça marchait pas du tout pour moi. Et donc, en fait, j'ai arrêté de faire du drag, j'ai arrêté de me travestir.
À côté de ça, il faut dire que si ça marchait pas en casting, c'est pas à cause de son talent, hein. Vous le verrez.
Oh, vraiment,
ça,
des
c'est vraiment.
Des,
c'est ouais, vraiment.
Des puces.
J'ai le zizi tout dur. Ouais, j'avoue que j'ai pas mal galéré en tant que comédien avec ça parce que, en fait, à Florent, quand je me suis mis à faire des rôles, à un moment, je me suis dit, je vais montrer quand même que je sais faire des rôles féminins. Il y a pas beaucoup de comédiens qui font ça. Donc j'avais joué Madame dans les bonnes de Genet, je faisais un personnage très extravagant et tout. Et à partir de là, tout le monde s'est mis à me faire faire des rôles comme ça de travesti. Mais en plus, c'était pas du drag. Les projets qu'on proposait, c'était... Il y avait un amalgame, on me faisait faire des femmes trans, on me faisait faire des prostituées dans des caravanes, dans des trucs. J'étais à bon, est-ce que vraiment j'ai envie de faire une carrière avec ça? Et moi-même, je pense que j'étais pas complètement à l'aise avec qui j'étais en tant que garçon. J'arrivais pas à séduire, j'arrivais pas à plaire et tout. Donc je faisais un amalgame et je me suis dit, bon, allez, mets ça en pause, tu verras plus tard. Et c'est là que j'ai commencé à regarder Drag Race. Donc en parallèle, je regardais Drag Race et en parallèle de ça, j'essayais de me déguiser en mec un peu BCBG avec des cheveux courts, de faire croire à tout le monde que j'étais le mec le plus viril de la Terre alors que pas du tout. Et à force de regarder Drag Race, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, il faut que j'y retourne, j'aime trop ça. Et j'ai écrit un scénario de film et c'est comme ça que je me suis lancé et que j'ai créé Paloma.
Je pense que Drag Race, c'est l'avantage que ça avait par rapport à d'autres émissions, c'est que ça mettait en avant les drag queens et ça faisait pas plutôt le dindon de la farce où on l'utilisait comme clown. Et l'avantage, c'est que Drag Race, il y avait vraiment à chaque fois des queens très différentes, donc vous pouvez s'identifier à plusieurs drag queens. Et l'avantage, c'est que chacun pouvait trouver son compte. On pouvait trouver une queen plus marrante, une queen plus jolie, etc., etc. Et du coup, ça donnait des exemples qui pouvaient. Et je pense que quand on se cherche, et les exemples, c'est important.
Wow.
Comment tu l'as créé ton personnage de Paloma? Parce que tout à l'heure, tu disais, t'as écrit, t'as inventé le personnage de Paloma, t'as dit
ça.
Ah
oui, bah oui, parce qu'au départ, moi, je ne comptais pas du tout être une drag queen. Hein. Je comptais être un réalisateur très sérieux, faire des interviews pour Télérama.
Voilà, désolé, voilà. Juste avec
non, non, mais chez elle.
Moi, mon but dans la vie, c'était d'être Pedro Almodovar. Voilà,
voilà, très bien.
Et en fait, j'ai écrit un court-métrage qui s'appelait Paloma. Je me suis dit, tiens, je vais me faire kiffer, je vais m'écrire un rôle de drag queen. Et en fait, comme j'aime bien aller au bout des choses, je me suis dit, je vais rencontrer des vraies drag queens, je vais m'immiscer un peu dans le milieu.
Expérience sociale.
Voilà, je vais autant jouer le truc, puis essayer de le faire pour de vrai. Et en fait, ça m'a dépassé, c'est devenu ma vie.
Ah ouais.
Et Paloma était un personnage de film, vraiment.
Ah ouais, c'était un one shot.
Oui, c'était un one shot et je ne l'ai jamais quitté. Mais en fait, c'est drôle à dire, mais j'ai jamais autant travaillé que depuis que j'ai Paloma dans ma vie. Donc,
alors voilà. Justement, est-ce qu'on en vit ? Est-ce que vous avez autre chose ? Toi, Cam, t'es maquilleur. Est-ce qu'en en France, aujourd'hui, on peut vivre du drag ?
Je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Moi, je sais que mon drag me coûte très cher, et le drag en général coûte très cher. Mais je sais qu'à un moment, j'avais le choix en fait, entre quitter mon daily job, qui était maquilleur, du coup... Et c'était un 37 heures, donc ça me demandait beaucoup, beaucoup de travail. À côté de ça, faire des vidéos YouTube, à côté de ça, faire du drag. Et j'avais le choix entre quitter ça, parce qu'en gros, je pouvais à peu près vivre du drag avec... je faisais des collabs avec des marques, des choses comme ça, et des perfs. Mais si je faisais ça, j'avais peut-être plus d'argent pour investir autant que ce que je faisais dans les perruques, dans les tenues, etc. Et je voulais toujours garder le standing, entre guillemets, que j'avais imposé. Et du coup, j'ai toujours gardé ce daily job que aujourd'hui j'ai réussi à quitter grâce principalement à Drag Race. Et donc, c'est vraiment une ouverture qui m'a permis d'en vivre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu... On peut en vivre, mais c'est très récent.
Il faut vraiment turbiner.
Ouais, faut y aller. Parce qu'en fait, en France, reste assez nouveau.
Tu vis plus des partenariats avec les marques que des shows ou des performances, non ?
Je pense qu'on peut vivre des shows. Je connais la plupart des drag queens, d'ailleurs, vivent des shows.
Moi, c'est mon partenariat avec William Sorin qui me fait vivre.
la corbeille dans les cheveux. C'est ça.
Non, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de drag queens qui peuvent se vanter en France de vivre de ça et de vivre bien de ça.
Oui, vivre bien,
c'est quand même encore un métier très précaire. Et je pense que beaucoup de drag queens, il y a très peu de drag queens qui sont vraiment professionnels. En tout cas, qui ne font que ça aussi parce que c'est un emploi précaire. Ou alors, il faut vraiment... Enfin, faut pas faire ce que tu fais toi, c'est-à-dire investir autant dans ton drag.
Oui, c'est ça. Et après, c'est faut avoir d'autres choses. Je pense que juste les shows, c'est compliqué. Ouais. Mais après, par exemple, moi, je fais des réseaux sociaux, je fais du maquillage sur internet, etc., etc. Donc ça c'est un autre revenu qui est en complément et du drag, mais Paloma aussi a un autre.
Moi, je suis intermittente du spectacle, mais je suis comédien, réalisateur, costumier. Je fais des perruques. Enfin, je fais plein de choses qui sont qui sont satellitaires avec le drag, mais qui sont des emplois autres. Maintenant, je fais quasiment que du drag. Même d'avoir des cachets, quand on est intermittent, on est payé en cachet. Avoir des cachets en drag, c'est compliqué.
Très compliqué.
Parce que la plupart des employeurs, c'est des boîtes de nuit, c'est des clubs. Ils n'ont pas
le statut
d'entrepreneur du spectacle, ils ne peuvent pas faire ça. Et en plus, ils ont une méconnaissance des tarifs, vraiment.
Ça, les tarifs, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de mettre en place et qu'on essaie pour que tout le monde s'y retrouve et que les nouvelles comme les anciennes, tout le monde ait un
cachet intéressant. Ça, Drag Race peut tout changer. Hein,
exactement.
C'est une des raisons pour lesquelles je me suis inscrit au casting. C'est parce que je me suis dit, là, on va être des pionnières. On peut changer ça pour les autres. Ouais. On peut faire en sorte qu'il y ait un cadre professionnel qui soit le même pour tout le monde, qu'il y ait des tarifs qui soient
il y a un minimum et
qu'on syndicalise un peu les choses c'est ça le problème, c'est que comme il y a beaucoup de gens amateurs, il y a beaucoup de gens dans les soirées qui disent ah très bien, moi je le fais gratos ou moi je le fais pour pas cher, c'est pas grave, enfin l'amateurisme c'est très bien, mais du coup il y en a qui sont professionnels et qui doivent s'aligner sur ces tarifs là et c'est compliqué.
Lorsque Drag Race France a été annoncé, il y a eu quelques concerns de la part des plus petites drag queens française qui prévoyait que les prochains shows à venir dans les clubs, boîtes, etc., ça n'allait être que autour de Drag Race France, des candidates de Drag Race France. Et elles étaient assez inquiètes d'être complètement délaissées parce qu'elles n'étaient pas aussi famous, enfin qu'elles n'étaient pas passées à la télé, tout simplement.
Ouais, mais toutes les boîtes ne peuvent pas aligner les cachets justement de Drag Race France.
Oui. Ça dépend. Ça dépend ce que le syndicat revendique.
En fait,
ça c'est clair.
Je pense... Non, mais c'est une crainte légitime en plus.
Je sais pas si c'est le cas de toutes, je sais pas, mais en tout cas pour nous deux, c'est sûr, Paloma et moi, c'est moi j'avais aussi une volonté justement de toujours mettre en avant les drags qui
locales.
Non locales, donc c'est le nom des, enfin c'est le nom qu'on donne aux drags qui n'ont pas fait Drag Race, même si il y a clairement de très bonnes drags et très connues d'ailleurs hors Drag Race France. Cela étant, je pense que c'est important de mettre en valeur tout l'art du drag et pas seulement l'art au travers de Drag Race France.
Oui, et encore, on parle de tarifs Drag Race, mais même nous qui venons de faire l'émission, nos tarifs, ils n'ont pas forcément augmenté.
Attends un mois.
Peut-être, mais on voit bien qu'on est en France quand même et que le drag, les gens ne se rendent pas compte de ce que ça implique. C'est Nikki qui dit ça, il y a la raison. On est payé le même tarif qu'un Chippendale qui est en string sur scène. Alors certes, il va à la salle de sport, ça, il faut qu'il paye son abonnement, mais nous, on a les perruques, on a les costumes, on a énormément de choses et en plus, on fait toute seule, c'est quand même un coût, enfin si on calcule le coût de revenu et la dépense, c'est absurde.
Moi je sais que j'ai été très longtemps et très rarement rentable. C'est pour ça que de base c'est quand même une passion rare. Le drag, parce qu'on fait ça vraiment pour nous et avec le temps éventuellement ça devient quelque chose de professionnel. Je pense que c'est ça qui rend le drag difficilement professionnalisable facilement, c'est le fait qu'il y a un coût à l'entrée, c'est ça qu'on dit dans les en ES. Il y a un coût à l'entrée qui est assez onéreux, quand bien même on fasse du drag même assez simple. Malgré tout, il faut souvent renouveler plein de choses et ça a un coût certain.
Ouais.
Professionnel de la nuit, vous avez entendu le message des queens françaises.
Ouais, je veux juste rajouter un truc par rapport à la question qui était posée, c'est-à-dire comment les autres drags qui n'ont pas fait Drag Race accueillent le truc. Je pense qu'il y a des craintes qui sont légitimes parce que on sait très bien qu'une machine comme Drag Race, ça reste quand même un certain type de drag. Ça reste une émission de télé. On va avoir une visibilité qui est énorme par rapport aux autres. Après, il faut aussi que nous, on ait l'intelligence de pas en faire juste un truc autour de nous, mais qu'on aide justement les queens locales. Et puis, il y a tellement de drag, tellement de différences dans le drag. Drag Race, ça reste quand même un certain spectacle avec un certain type de drag queen.
Même si on a eu la chance d'avoir un cast très varié.
Et pour une émission de drag queen, t'as raison, c'est un cast très varié parce qu'on a une queen à barbe, on a des gens qui viennent du cabaret, on a une femme trans. Enfin, on a vraiment une vraie diversité. Mais en France, il y a du drag king, il y a du club kid, il y a plein de formes de drag qui sont pas forcément encore très vues à la télévision. Et c'est à nous aussi de faire en sorte que
cette communauté
existe avec Drag Race et pas malgré Drag Race.
Et aux gens qui nous écoutent, vous verrez certainement sur nos réseaux sociaux un partage de nos amis drag et nos familles drag et les gens qu'on connaît en drag. Et c'est important d'aller les voir aussi, vu que clairement, il y a beaucoup de talent autour de nous.
Sans transition dans l'émission américaine, dans les moments où elle se maquille, le moment confession, on entend souvent parler de coming out drag auprès des familles. Vous êtes à l'aise pour
On a la même histoire en plus.
On a les histoires bien. L'histoire mignonne.
Nous, on a vraiment de la chance.
Go on.
Toutes les deux, on a vraiment des parents qui sont nos fans numéro 1, je
pense.
C'est ça. Ma mère, elle a arrêté de m'appeler Hugo déjà.
Ah bon?
Bah, c'est fini. Ça, c'est fini. C'est du passé. Hugo n'existe plus. Maintenant, ma mère, je l'appelle, elle décroche, elle fait
Palo.
Comment va ma Paloma?
J'adore.
Ah ouais, c'est fan numéro 1, vraiment.
Ok.
Objectivité zéro. Hein. Je suis la meilleure du cast, je vais toutes les écraser. C'est moi qui ai les meilleurs looks, voilà.
Ah oui, vraiment, objectivité zéro.
Shady bitch.
Toi, tu disais que ta mère, elle te faisait des cheveux longs quand tu t'es déguisée en princesse. Donc
ma mère a toujours été hyper, hyper, hyper enthousiaste de tout ce que je faisais. Et dans le bon sens du terme, elle me disait pas oui pour me dire oui. Elle me soutenait dans le principe où si mon enfant est heureux, je suis heureuse. Et je pense que c'est une valeur que beaucoup de parents ont et j'espère devraient avoir. Mais à partir du moment où ton enfant est heureux, je pense que c'est le principal. Et elle m'a toujours soutenu dans tout ce que je faisais. Et je sais que le drag, ça lui a jamais fait peur. Au contraire, vous verrez sur toutes mes photos, il y a un commentaire de ma mère. Elle répond à toutes mes stories. Quand je dis toutes mes stories, c'est chacune de mes stories.
Ah ouais.
Et c'est vraiment la meilleure. Et je sais que on dit souvent coming out drag, mais en vrai, moi, je pense qu'il y a pas trop de coming out drag. C'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Et petit à petit, ça se fait. Au final, moi, elle m'a toujours dit, à partir du moment où t'es heureux et que tu fais les choses comme tu veux, ça me va.
Ça peut arriver quand même. On a des potes drag qui sont drag depuis des années et leurs familles le savent pas.
Ouais.
Quoi.
Mais après, toutes les familles, malheureusement, sont pas aussi.
Mais nous, c'est nos mères qui nous ont mis en drag pour la première fois.
C'est toi aussi?
Oui.
Ah, waouh.
Ma mère, elle m'avait. C'est chaud en vrai.
Ouais, mais elle est couturière, ta mère.
Non, ma mère est dentiste.
Oh, wow. Alors, les infos ne sont pas passées.
Non, ma mère est chirurgienne dentiste, s'il vous plaît.
T'es sûr?
Oui.
Oh là là, je fais du shade un peu trop.
Mais moi, ouais, j'avais 8 ans et ma mère, il y avait ma prof de théâtre qui partait à la retraite ou je sais pas quoi. Et elle s'est dit, tiens, tu vas jouer la femme du sous-préfet, tu vas venir lui remettre les palmes académiques devant tout le monde au spectacle de fin d'année.
Déjà, on a de l'idée. C'est pas une princesse ou une fée, hein, oui, c'est une sous-préfet.
Déjà, on était c'était au théâtre ce soir, tu vois. Déjà, il y avait un concept. Et elle m'avait fait une perruque avec un slip et de la laine. J'avais un petit chapeau et tout. Elle m'avait maquillé comme une voiture volée. Et j'avais fait le truc et toute l'école était comme ça, genre vraiment choquée de me voir.
En plus, quand on est petit, on n'a pas honte, c'est ça qui est
cool. Ma mère m'a dit, parce que je m'habillais tout le temps en fille quand j'étais petit, je me faisais des looks tout le temps. Et elle me disait, tu ne t'habillais pas en princesse comme la plupart des petits garçons qui se déguisent en fille. Tu t'habillais vraiment en drag queen. Moi, mon truc, c'était, j'étais fan de Derrick.
Oh waouh.
Ouais. J'étais fan des séries allemandes qui passaient l'après-midi. Ça me fascinait.
Série policière.
Je trouvais qu'il y avait un climat hyper érotique.
Érotique.
Je suis super mal à l'aise.
Ouais. Non, mais je comprends. Je sais pas pourquoi ça a éveillé un truc hyper bizarre chez moi. Et en fait, j'adorais les bourgeoises parce que Derrick, il allait toujours chez des bourgeoises l'après-midi, tu sais, pour enquêter. Et c'était toujours des Frau Müller qui étaient en tailleur kaki, tu sais, avec des chignons bananes, tu sais, blonds et qui fumaient des clopes. Et moi, mon but dans la vie, c'était d'être Frau Müller, je pense. Voilà.
Waouh. Et moi, c'était être une fée, une princesse, Barbie, lac des cygnes, toutes ces choses-là.
Et dans les relations amoureuses, parce que ce qu'on disait avec Mathieu quand on préparait, c'est
qu'on adore débattre de tout.
Nous, oui, tout le temps.
Aucun
on
tabou.
Parle beaucoup. C'est que on parle de, pour les dragues, de perte d'attributs dits de virilité, genre ils sont corsetés, ils sont machin, tu vois. C'est les clichés. Voilà. Est-ce que c'est un obstacle ou est-ce que
ça a changé, je crois. Je crois vraiment que ça a changé. Enfin, en tout cas, nous, on est dans une bulle parisienne aussi. Hein. Faut pas mélanger tout.
On a grandi
en région. En région, je pense que c'est pas pareil partout. À Paris, on a quand même beaucoup de chance. Mais moi, j'ai jamais eu de problème en drague avec ça. Enfin, j'ai jamais eu de problème en draguant.
Ouais.
D'ailleurs, je le dis tout le temps. Ça trie les cons. Si jamais il y en a qui apprécient pas, ben.
Et je pense que récemment, même, c'est devenu limite un avantage.
Ouais, limite, c'est un peu cool, un peu.
Ouais,
un
peu c'est différent, donc ça plaît. Et puis, la plupart des gens maintenant sont au courant. Enfin, la plupart des jeunes sont au courant, en tout cas, de ce qu'est une drag queen. Du coup, ça aide un peu.
Ouais, et puis ça a changé. Moi, quand je suis arrivé à Paris en 2009, je le voyais dans les soirées gays, pour pas dire queer, parce que j'avais vraiment des soirées gays. Il y avait un certain profil qui était recherché, il fallait être masculin, c'était la mode de la chemise de bûcheron, les mecs avaient de la barbe, ils se rasaient le crâne. Il y avait un truc où il fallait pas être féminin, c'était d'ailleurs les drag queens n'étaient pas à la mode du tout à ce moment-là, c'était devenu un peu ringard. Et maintenant, je trouve que la nouvelle génération, tout le monde est hyper déconstruit, fluide, les mecs mettent du vernis, ils ont les cheveux longs. Je trouve ça
hyper
vraiment
cool
et c'est plus du tout... En tout cas, dans mon expérience personnelle, c'est plus un obstacle.
Oui, clairement pas. Non, vraiment.
Mais moi, je suis célibataire, toi, t'es... Ouais,
est-ce que alors, je parle de mon couple? Je voulais demander, est-ce que... Cam, on sait que tu es en couple, mais est-ce que toi, tu pécho en drague, par exemple?
Alors,
moi, je sais, quand je suis en drague, je suis anesthésié.
Genre, ah, mais c'est pareil, voilà. Ouais. C'est-à-dire que Hugo et Paloma n'ont pas du tout la même libido. D'ailleurs, Paloma n'a pas de libido. D'ailleurs, moi, je n'aime pas sortir en drague une fois que j'ai plus de raison de l'être. J'aime bien... Enfin, si, je le fais quand on sort du show, je vais sortir avec les potes en drague, mais... si je veux sortir pour draguer, je ne vais pas en drague. Non. Pour moi, Paloma, c'est mon boulot. C'est un personnage que j'ai créé et je ne la sexualise pas du tout. Ce qui peut être le cas de plein de gens. Il y a plein de gens qui sexualisent leur drague ou qui, justement, en font des personnages très sexualisés. Moi, Paloma, c'est Daphné dans Scooby-Doo, donc elle n'a pas de, de vagin.
Elle débrief. Parlez-nous maintenant du casting, on veut tout savoir.
Au moment où du coup a été annoncé le casting de Drag Race France, sachant que ça arrivait genre du jour au lendemain, d'un seul coup on a su qu'il y avait Drag Race France et que c'était l'appel pour le casting. J'étais à Los Angeles, je me maquillais en drag pour aller visiter la maison de Charmed.
Oui. Ah, oui.
Et l'après-midi, les maisons de Desperate Housewives.
Ah, tout à fait.
Vlog sur YouTube si vous voulez aller voir. mais du coup, c'était ce matin-là, je me souviens, j'étais en train de maquiller, d'un seul coup je reçois genre 1 million de messages, j'ouvre un message de Miss Cracker, qui me dit
Miss
This
Cracker,
is your
qui est
time.
Une queen de RuPaul's Drag Race US.
Ce qui est fou, c'est que la veille, t'avais mis un message, t'étais passé devant WoW Present et t'avais dit bientôt peut-être.
Exactement, parce que j'avais un hôtel à côté d'Hollywood Boulevard, et à Hollywood Boulevard, il y a les locaux de WoW Present, et il est marqué en fait
la
liste.
La boîte de production.
Qui est la boîte de production de RuPaul's Drag Race. Et il y avait la liste du coup de tout Drag Race dans le monde, donc tous les pays, il y en avait beaucoup, il y a Hollande, il y a Espagne, etc. Et il n'y avait pas France. Et j'ai dit, oh là là, à quand la France? Et littéralement, le lendemain, lendemain.
Le lendemain.
Il y avait la, il y avait l'appel au casting. Donc c'était très 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 marrant. C'était une très belle journée. Et je me souviens avoir envoyé, parce que comme j'étais pas chez moi, j'aurais eu du mal à tourner une vidéo rapidement. Donc j'ai envoyé un mail en me disant, est-ce que c'est bon si je l'envoie dans 5 jours quand je rentre? Et je me souviens m'être mis en drague. Genre j'ai atterri. Le lendemain j'étais en drague. Et j'ai fait ma vidéo pour le casting.
Ah ouais, t'as sauté sur le truc tout de suite.
Ouais, mais moi, c'est ce que je disais. Genre, en fait, j'avais un souvenir qu'on m'avait dit, Drag Race, faut vraiment envoyer au plus vite la candidature, puisque, en gros, une fois qu'ils ont fait leur casting,
ah oui,
les vidéos qui reçoivent...
Ouais. Ouais, c'est non.
Ça. Mais alors que pas du tout, pas spécialement, mais je me suis dit, il faut tout faire vite. Et puis, dans tous les cas, j'étais tellement excité, j'avais tellement envie de le faire que je voulais montrer.
Ouais, du coup, c'était vraiment ton rêve de le faire.
Alors rêve c'est un peu gros, mais oui, j'avais vraiment envie de le faire.
Bah, pour plein de raisons. Pour moi c'était une évidence. C'était...
Ouais. Oui. Ah ouais, mais c'est pas. J'ai toujours voulu. Je vais être très honnête. J'ai toujours dit je veux faire Drag Race. C'est mon émission préférée. Je connais tous les épisodes par cœur. Vraiment, je suis incollable. Je peux vous réciter toutes les queens de toutes les saisons dans l'ordre et tout. Vraiment, je suis un taré.
Almost same. Il faudrait qu'on fasse un quiz.
Mais j'ai vraiment hésité. Je me suis vraiment posé la question.
Ah ouais.
Mais oui, parce que je viens du théâtre et je viens du cinéma et c'est un milieu hyper snob.
Et tu dis que tu peux pas revenir en arrière ?
Je me suis dit, en fait, si tu fais ça, est-ce que tu vas pas avoir une étiquette télé, déjà, qui n'est pas toujours bien vue dans le milieu du cinéma ? Et en plus de ça, est-ce que tu vas pas être pour toujours une drag queen ? Et si jamais je veux faire des films, être réalisateur, est-ce que ça va pas être un frein ? Et j'ai vraiment réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que t'as à perdre ? Tu rêves de le faire. De toute façon, c'est pas comme si t'étais actuellement en train de monter les marches à cannes, oui. Tu vois, le risque, il
ça
est quoi.
Ça peut que être du bénévole.
C'est quoi le risque, en fait? Et je me suis dit, c'est la saison 1 ou rien. Si je réussis pas le casting de la saison 1, je ne le fais pas. Alors que beaucoup de gens se sont dit, on attend de voir comment se passe la saison 1,
ouais.
Machin.
Alors que nous, ouais, on a vraiment
moi,
fait confiance.
La 1 ou rien. Je vais être dans les pionnières.
Ouais. Je me souviens m'être dit exactement pareil. Je m'étais dit, je veux vraiment faire la 1. Parce que du coup, enfin, je vous ai dit que je partageais beaucoup sur les réseaux sociaux, je partageais tout. Et mon but, c'était de rendre le drag le plus visible possible. Au-delà d'avoir juste beaucoup d'abonnés, c'était l'idée, c'est de rendre le drag visible. Parce que plus c'est visible, plus ça paraît normal. Et plus c'est normal, moins on se fait agresser, moins de choses comme ça. Enfin, bref, il y avait une vision comme ça. Et du coup, Drag Race, je me suis dit, c'est vraiment l'apothéose de la visibilité drag. Et je me suis dit, j'ai envie de faire partie de cette saison pour montrer tout ça et pour en faire partie et vivre l'aventure. Et je voulais vraiment faire la saison 1, donc j'étais...
Et d'ailleurs, content. Pas de spoil, hein, c'est no toi spoil. Qui es la première.
Yes.
On le sait, puisque l'épisode a été diffusé hier, t'es la première à entrer dans la workroom.
Oui, je me souviens juste avant d'entrer, on me briefait sur plein de choses, etc. Et je me suis dit... Je me souviens parce qu'avec Paloma, du coup, on était amis avant l'émission et on se disait, je vais être première ou je vais être la dernière à entrer.
Ouais, et toi, Paloma, t'es la dernière.
Ouais, voilà.
Et du coup, on s'est dit, on veut l'une des deux positions. Et moi, je sentais que j'étais la première parce que tout allait vite le matin, tout allait vite. Et du coup, je me suis dit, bon, je dois être dans les premiers et j'espère être la première. Et quand donc j'entendais rien et je suis rentrée. Il n'y avait personne et j'ai fait c'est moi la première. Du coup, je me suis dit, c'est quand même ouf, je suis du coup la première drague française à rentrer dans Drag Race France. C'est assez incroyable.
Donc tu as vraiment découvert les autres queens en arrivant sur le set.
Mais non, c'est les autres qui sont arrivés après toi.
Oui, c'est ça en fait. Ouais. Moi j'étais la première, donc je suis la seule qui a vu tout le monde arriver.
Ouais. Oui, voilà.
C'est moi qui suis arrivée, elles étaient toutes là.
Ouais,
exactement.
Voilà, Cajolion.
Ouais. Mais du coup, la concurrence est arrivée à la fin, donc c'est pas cool.
Et donc ensuite, le casting, une fois que la vidéo est passée, il se passe quoi ?
Ah non, mais moi, j'ai pas envoyé la
vidéo
tout de suite.
On a tous des anecdotes
sur
ça.
J'ai hésité hyper longtemps. En fait, j'ai envoyé un mail en disant... Parce qu'il fallait envoyer un mail avec si tu voulais candidater. Et après, t'as envoyé un mail en disant « Ok, faut que t'envoies ça, ça, ça et ça et ça. » Et en fait, j'ai attendu hyper longtemps. J'étais là, non, je sais pas, je me posais toutes ces questions. Et au bout d'un moment, je me suis dit « Allez ». Et là, j'ai envoyé et après, ça allait très vite.
Sujet plus sérieux. C'est pas tous les jours que sur un programme télé en France, on voit la communauté LGBTQIA+. Déjà, on est ravis de savoir que la redevance télé sert à ça.
Yes.
Mais c'est inévitable, ça réveille, ça titille les homophobes.
Ça va faire grincer les dents.
Évidemment, ça a déjà commencé sur Twitter, mais bon, on sait que les gens pour se plaindre sont plus bruyants que pour
aller voter,
pour féliciter ou que pour aller voter. Deux questions, est-ce que vous avez lu tout ça sur les réseaux sociaux et comment vous comptez vous en protéger ?
Alors,
vraie question.
Oui,
moi j'ai dit à toutes les meufs. Je leur ai dit, ne tapez jamais votre nom sur Twitter, parce que c'est la pire chose qu'on puisse avoir. Regardez juste.
Ça veut dire que tu l'as fait ?
Non. Ah, non, j'applique ce que je dis.
Non, mais les gens qui nous aiment pas, ça, je m'en fiche. Oui. Mais, pour parler vraiment de la redevance télé, moi, c'est un truc que j'ai dit dans ma vidéo d'audition, d'ailleurs. J'ai dit, je suis super fier que la France produise des émissions, mais je suis encore plus fier que ce soit le service public, que ce soit la redevance télé qui paie pour ça, parce qu'on est le premier pays qui produit cette émission avec de l'argent public. Je trouve ça quand même très, très classe. Et ça prouve bien qu'il y a une vraie volonté de faire avancer les choses et de donner une visibilité à une communauté qui est invisibilisée en temps normal. Et les gens s'offusquent, mais la redevance télé, elle paie pour des trucs, franchement...
Bien bah, le jour du Seigneur, hein, le non, jour du voilà, Seigneur.
On a quand même des trucs qui sont payés par le service public.
On s'en rend pas compte.
Moi, je veux dire, je suis pas croyant, je regarde pas la messe le dimanche. Je vais pas gueuler sur Twitter parce que des gens ont envie d'avoir la messe...
De toute façon, on part toujours du même principe, c'est chacun fait bien ce qu'il veut du temps qu'il fait du mal à la personne. Et clairement, on fait plus du bien aux autres que du mal aux autres.
Déjà, les gens, s'ils ont pas envie de payer la redevance télé, déjà qu'ils arrêtent de la payer, et puis surtout, qu'ils sont pas obligés de regarder l'émission.
Surtout, ils sont pas obligés.
Personne les oblige, tu zappes, enfin voilà.
Et quid de la... Je sais pas si ça existe, la dragophobie au sein même de la commu, tu vois, de tous ces mecs hyper fermés d'esprit qui disent « on veut pas cette représentation-là ».
Je pense aussi qu'il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a beaucoup de mecs homo, et je pense que c'est aussi le cas même pour des femmes lesbiennes ou pour plein de personnes de la communauté LGBTQIA+, mais il y a parfois un besoin de se normaliser ou de s'intégrer dans la société parce que le monde du travail, parce que la vie sentimentale, parce que la vie sociale. Et il y a des gens qui prennent le pli aussi de l'hétéronormalité. Et du coup, ça crée des phobies de gens qui sont plus libres.
Et d'un côté, ils oublient même les combats et les combats qui restent à mener. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que, ben, par exemple, les drags sont très importantes et toute la communauté et les gens qui se battent pour la communauté LGBTQIA+. Et ça, faut jamais l'oublier, même si bien sûr, on vit mieux notre queerness qu'en 1980. Il y a quand même des combats qui restent à mener et je pense que ce serait tragique de les oublier.
Oui, exemple tout simple. Moi, quand j'étais petit, je savais déjà que j'étais homo, j'essayais de le cacher, les gens le savaient, ils le voyaient, je veux dire, c'était marqué sur mon visage.
Same.
Et ils me pourrissaient. Et le jour où j'ai décidé d'assumer, j'étais la personne la plus flamboyante de la Terre.
Exactement.
Je suis arrivé en seconde en mode fabuleuse et tout.
Toi aussi, c'était
en
seconde. Et ça
a coupé la chic à tout le monde. Du coup, les gens n'osaient plus m'insulter parce que j'assumais tellement fort ce que j'étais que bah du coup ça ne créait plus de
c'est
violence.
C'est toujours pareil. Si ils voient qu'ils te crient dessus et que t'as pas honte de ce pourquoi ils te crient dessus, bah ça leur fait plus rien.
Et les seuls qui étaient gênés, c'était justement les mecs homo qui n'assumaient pas.
Les hétéros cachés. Les homos cachés.
C'est exactement la même chose.
Ouais. C'est quoi les clichés que vous voulez débunker? Tout à l'heure, on en parlait.
Queen.
Ouais. Qu'est-ce que vous entendez et que...
Moi, il y a un truc qui me...
Déguisement.
Ouais, mais ça, c'est un truc futile, le déguisement. C'est vrai qu'on nous dit, ah, vous êtes déguisé. On est costumé. Moi, je considère que j'ai un costume de scène. Après, ce qui m'embête, c'est qu'il y a encore des amalgames entre drag queen,
identité de genre et identité sexuelle.
Voilà. Les gens se disent, ah, c'est des drag queens, donc ils disent même pas c'est des personnes transgenres, ils vont dire c'est des transsexuels. On dit plus ça depuis très longtemps. Et aussi, on nous confond un peu avec des travailleurs du sexe.
Oui, et en fait, il faut que les gens comprennent que c'est un art, et comme tout art, comme tout peintre, par exemple, c'est ouvert à tout le monde, femme, homme, femme trans, homme trans. Donc du coup, l'avantage de dire ça, c'est... Moi, je dis souvent, c'est vraiment un art, pensez-le comme un art. Donc c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ton identité de genre, identité sexuelle. Évidemment, ça peut avoir un lien, mais en tout cas, ça n'en a pas fondamentalement.
Oui, et on ne dit pas ça pour déprécier
des femmes trans peuvent être...
Ou les travailleurs du sexe, d'ailleurs. Mais c'est comme être magicien ou...
Ça n'a pas de lien.
Ou chanteuse lyrique. Enfin, c'est une discipline artistique.
Ouais, je pense que c'est
et on peut être trans ou être cis et le faire, mais c'est un métier, c'est une passion. C'est un
oui, c'est ça. Ça n'a pas de lien avec ça.
Enfin, il y a des clichés qui reviennent quand même. Au départ, les drag queens, c'est beaucoup le milieu de la nuit. En tout cas, dans les années 2000, l'explosion du drag, c'était quand même dans les années 2000, au Queen, tout ça. Il y a encore beaucoup de clichés sur le fait que c'est un milieu d'alcoolique et de drogué, ce qui n'est pas vrai.
Ce qui n'est pas vrai. J'ai jamais pris une seule drogue
moi
de toute
ma
vie.
On est les deux. Personne n'est plus sage de la Terre. Ouais. Je fais les choses très sérieusement. Le drag, pour moi, c'est très sérieux. Je ne prends pas ça au sérieux, mais je le fais sérieusement. Donc, je ne monterai jamais sur scène ivre, par exemple. J'aurais l'impression de voler un truc au public.
Oui, c'est ça. C'est que moi, j'aime bien m'amuser en drag, mais je considère toujours ça comme mon travail. Donc, même si je m'amuse, même si en vrai, il y a y a rien de sérieux dans la façon de le faire, je le fais de façon sérieuse et je considère ça toujours très important, genre tout ton maquillage est toujours rangé, je viens toujours avec tout ce qu'il faut, etc, etc, et tout doit être ultra cadré, et une fois que le cadre est mis, bah là on peut s'amuser.
Oui, en même temps nous on est les Marie les psycho Kondo du Drag Race.
Voilà, vous verrez, vous comprendrez dans Drag Race.
Elle débrief. En France, l'émission est présentée non pas par RuPaul mais par Nikki Doll, aux côtés de Daphné Burki et Kiddy Smile en juré. Les téléspectateurs, les fidèles la connaissent déjà, puisqu'elle a fait partie du cast de la saison 12 de l'émission aux États-Unis. C'est la première et unique French Queen de RuPaul's Drag Race. Mathieu, tu l'avais interviewée pour nous il y a 2 ans. C'était une vidéo. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle, sur Nikki Doll?
Alors, c'était au sortir de la crise du Covid, ouais. Parce qu'on se souvient que cette saison avait été malheureusement avortée à cause du Covid. Et moi, bah, j'étais hyper heureux de la recevoir dans les locaux parce que j'avais un peu l'impression de recevoir la
reine de France.
La reine de France du drag. J'ai trouvé une espèce d'analogie pop culture et j'étais parti sur Mylène Farmer, mais bon, quand même. Vraiment, à l'instant où elle est rentrée dans les locaux, dans sa robe lanvin avec ses grandes lunettes, on était tous en mode waouh, c'est quelqu'un. Et donc, bah, je l'ai interviewée et ça a été l'occasion de rencontrer donc, ce personnage bah, qui en impose. Voilà, c'est une femme forte. Enfin, c'est un personnage de femme forte, indépendante, elle est tirée à 4 épingles, elle a toujours la réplique qui va bien. Et elle nous avait expliqué d'ailleurs comment le personnage de Nikki Doll était né. On l'écoute.
Nikki Doll est née à la Gay Pride 2009 à Paris. J'avais ce besoin de pousser le bouchon un peu plus loin que d'habitude et de vraiment assumer ma féminité. Et j'ai créé cette héroïne qui m'a permis de pouvoir faire cela.
Donc voilà, donc Carl Sanchez, de son vrai nom civil, avait 29 ans à l'époque, faites le calcul maintenant. Elle est originaire de Marseille et elle a élu domicile à New York. Et oui, c'est comme ça qu'elle s'est fait repérer pour participer à RuPaul's Drag Race saison 12. Son drag, il est incontestablement très mode. Elle s'est inspirée de plusieurs univers pour créer son personnage, dont notamment Nicki Minaj, qu'elle rencontre dans la saison 12 de RuPaul's Drag Race, mais voilà, également des personnages de manga très puissants, très confident, des top modèles très fashion, des actrices fatales, des muses qui lui ont permis de s'accepter suite à des événements compliqués durant son enfance. Carl a grandi au Maroc et il nous avait expliqué qu'il avait subi le harcèlement et les insultes. On écoute.
Sauf qu'au Maroc, j'étais adolescent et c'est là où tu te découvres queer, différent des autres enfants du lycée. Et en fait, j'ai appris en grandissant via le drag à non seulement accepter les différences que j'avais mais aussi en être fier, et c'est comme ça que j'ai vraiment réussi à m'accepter en tant que jeune gay.
Mais aujourd'hui, Nikki Doll, c'est une incontournable des défilés de mode comme elle l'a toujours rêvé. Voilà, on peut la voir chez Isabelle Marant, chez Jean-Paul Gaultier, chez Ami. Et ce mois-ci, puisqu'elle est une figure de la cause LGBTQIA+ en France, elle fera la couverture de Têtu, un magazine qu'on adore, des confrères. Mais surtout, Nikki Doll vient prendre la succession de RuPaul dans la version française de Drag Race France. Et c'est la première fois qu'une ancienne participante de l'émission arrive en tête de liste de l'émission.
Oui, parce qu'effectivement, il y a eu Brooklyn Heights qui a participé à la version US et qui est canadienne ouais. Et donc qui était co-host avec 2 autres personnes. Mais c'est vrai que là, Nikki Doll, elle est alone aux commandes.
Vraiment, c'est elle qui pilote l'émission. Et ça avait créé un peu l'inquiétude chez les fans. Enfin, les fans étaient curieux de savoir si elle allait être...
N'importe qui tu mets, ah bah quoi qu'il, les gens sont toujours en panique.
L'émission est tellement incarnée.
Nous, on n'était pas en panique.
Voilà. Et nous, quand on y a été, franchement, elle a
ça
fait
a
le job.
Ça a nos doutes.
Ouais, ouais.
Ah non, elle a pas seulement fait le job.
Ouais, ouais. Elle a vraiment fait le job.
Incroyable, vraiment.
Vous verrez quand vous regarderez l'émission, mais en plus de présenter très bien et d'avoir des looks incroyables sur les runways, elle avait les bons mots au bon moment, elle savait nous parler, elle présentait très bien, elle avait des émotions et c'était
drôle,
très plaisant. Et elle est
drôle.
Drôle.
Elle n'a pas du tout l'image qu'on peut avoir dans la version américaine, aussi parce que dans la version américaine, je pense qu'ils l'ont un peu mis dans la boîte de la petite française.
Ouais. Oui, et puis c'est pas sa langue, donc
mais
c'est plus compliqué d'avoir de la répartie.
Elle est hyper drôle en français.
Alors que,
ouais.
Franchement, ouais, je trouve qu'elle on l'a beaucoup vu faire de la promo et je trouve qu'elle a de la répartie, elle parle
très
bien,
fun.
Elle est drôle et tout. Ouais. Franchement,
ouais, génial.
Job.
Et en soirée, incroyable.
Et elle a une culture drag énorme, enfin vraiment, elle est pas du tout. Pas
non,
du
elle
tout...
est à sa place et
elle est vraiment à sa
choisie.
Place.
Eh bien écoutez, vous ferez votre avis durant toute cette saison. Nous en tout cas, On t'adore, Nikki.
Je le disais tout à l'heure avec Mathieu, on a passé une journée sur le tournage de Drag Race France. On a tourné une vidéo qui sortira très bientôt. Mathieu, on est d'accord, la première chose qu'on s'est dit quand on est arrivé sur le plateau, c'est franchement, ils sont pas foutus de notre gueule. Genre, wow. C'est vraiment, il y a du moyen,
y a
c'est magnifique.
Du budget.
La workroom avec la Tour Eiffel, vous l'avez vu, c'est rose, c'est lumineux, c'est très beau. On n'a rien à envier aux autres éditions. Moi, j'ai trouvé qu'on était 10 fois mieux que Canada, par exemple. Canada, la workroom.
Qui est froide.
Exactement. J'ai
bon,
pas
après,
envie
c'est l'hiver là-bas, tu me diras.
Certes. Mais, non, c'est mais quand bien même. Quand bien même.
Enfin, moi, quand je suis rentré, je me suis dit, ouais, on n'a pas déconné. Et je suis content parce qu'il y a tellement d'attentes et ça aurait pu être...
Elles étaient remplies. Parce qu'au final, ouais. Moi, je me disais, il y aura peut-être certaines choses qui n'iront pas, etc. Et au final, j'ai trouvé que chaque personne qui était là sur le tournage, que ce soit les caméramans, que ce soit les gens qui nous ont aidés, etc., chacun donnait 200% de sa personne. Il ne faisait pas juste le travail qu'il devait faire, il faisait beaucoup plus.
Ouais. C'était et tout éduqué le monde, sur le sujet.
Et même les queens, enfin, tout le monde s'est vraiment donné à 200% pour faire une belle émission, ce qui fait que l'émission est encore mieux que ça aurait dû être juste sur le papier. Donc c'est vraiment une émission incroyable et je pense que vous allez le voir parce que le montage est incroyable, tout est incroyable et on a hâte de le voir.
Mais c'est vrai qu'on voyait en backstage, parce que nous on regardait l'épisode comme si c'était une pièce de théâtre, et on voyait vraiment les équipes de production qui étaient vraiment impliquées et qui même pleuraient des fois, parce qu'il y a parfois des moments un peu émouvants forcément, et vraiment on sentait que c'était pas ils venaient juste travailler, ils étaient vraiment impliqués auprès
c'était
de nous.
Oui. C'était un vrai moment en fait de partage, on vivait les moments, enfin on se dit souvent c'est du acting, c'est pour de fou, elles pleurent pas vraiment, elles en font trop, et en fait à chaque fois... Tous les épisodes ont l'impression de pleurer, tous les épisodes on rigole, chaque épisode on a l'impression de vivre des semaines de vie en communauté tellement honnêtement c'est touchant.
Au-delà de la beauté du workroom, enfin de l'atelier comme on dit nous dans la version française, je peux pas dire quoi, mais il y a des surprises sur certains sujets. La France a des précurseurs, il y a vraiment des portes qui sont ouvertes par la France
qui n'ont
jamais
été
ouvertes en 15 ans dans Drag Race.
C'est excitant. Ouais. On a tellement
et hâte. Dans tous les sens du terme, c'est ouais. Dire tout le monde s'est tellement investi et on a eu des surprises nous-mêmes de la réalisation de la chose qui étaient des surprises très positives et que vous aurez dans les épisodes suivants.
Des grosses prises de risque de la part de la France et bravo.
Bon, racontez-nous ce qu'on voit pas, les journées en talons aiguilles, le tucking, tout ça, je veux tout savoir. On peut commencer par le tucking, comme ça c'est fait, s'il vous plaît.
Mais ça fait pas mal, moi c'est une
alors,
légende.
Alors, est-ce qu'on peut
en
parler une bonne fois pour toutes, okay. Parce que je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est, et apparemment, Cam, t'as une technique incroyable. Alors, dis-nous en quoi ça consiste.
Alors, le tucking, du coup, c'est une technique utilisée dans le drag et l'art de transformation en général, afin de dissimuler les attributs masculins. Il y a plusieurs méthodes, on peut utiliser des tucking panties, donc c'est une espèce de... un string qui va aplatir tout, on peut utiliser du scotch, il y a différentes méthodes. Dans tous les cas, en fait, le but est de dissimuler au maximum les attributs masculins afin de... Voilà, que ce soit plat. C'est exactement ça.
Mais il y a des drag queens qui tuckent pas, par exemple. Voilà.
C'est pas du tout obligatoire, le tucking. C'est vraiment...
Mais parce que
c'est important de le dire.
C'est aussi un... Tout le monde...
pense qu'on doit
tout le monde
ressembler...
tout le monde a une vision de la féminité qui est différente. Et nous, on est des drag queens, donc on singe, on essaie de reproduire des figures féminines, mais il y a des femmes qui ont des pénis, donc
c'est ça.
Pas
les poils, par exemple, ou aucun. Enfin, il y a plein de choses qui n'ont pas spécialement de rapport avec la féminité que nous on fait, par exemple, on se rase, etc. Mais c'est pas du tout le cas de toutes les drag queens.
Toutes les drag queens ne mettent pas des seins, toutes les drag queens ne se corsettent pas.
Oui, alors justement, parlons-en. J'ai l'impression. Peut-être que j'ai pas regardé, mais qu'il n'y a pas de.
Bah, moi je trouve que c'est assez.
Comme ça.
Old school.
Old school, ouais, j'allais dire.
Mais les Américaines, elles en mettent énormément.
Non, je trouve pas.
Ah bon?
De moins
genre
en moins.
Naomi Smalls, etc.
Ça disparaît un peu parce que.
C'est pas pratique.
Peut-être parce que. Aussi parce que. C'est à la fois un truc positif parce que du coup, il y a
On assume plus.
On assume plus l'androgynie et le côté fluide et aussi, c'est. Regardez, une femme peut ne pas avoir de sein et ça peut être joli, mais je pense que c'est aussi une habitude parce que le drag c'est
tellement
maintenant. Non, mais le drag maintenant, ça aspire tellement des runways et de la mode.
Ouais.
Et il y a aussi ce truc de des femmes filiformes et sans poitrine. C'est un revers un peu négatif aussi peut-être de.
Mais après, moi je sais que j'aime bien dans les tenues qu'il y a un volume quand même au niveau des seins. Déjà intégré, je sais que Paloma, tu ne vis pas sans le volume au niveau des seins.
Moi, j'ai besoin de que ce soit cartoonesque, moi. Ouais.
Attends, mais toi, tu mets des seins ?
Ouais, pas toujours.
Quand on dit des seins,
ça dépend
c'est pas
des looks,
gros
mais
oui, oui.
J'ai des tout petits
dans
seins.
Dans ta robe
Paco
Rabanne, ta robe signature, il n'y a rien en dessous.
Ma robe Paco Rabanne de la conférence de presse ? Non, parce que c'est...
Elle avait mis un corset,
là, pour le coup, je fais la mannequin des années 70, Jane Birkin, tu vois.
Ok.
Didou, didouda.
Mais il y a quand même un corset parce que sait-on jamais.
Ouais, oui, mais alors faut savoir que moi je mets des corsets même quand mes robes on voit.
Même quand elles portent des robes, des robes.
Parce que ça me maintient. Et que je me... En fait, le drag, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a un truc de souffrance un peu maso quand même.
Oui.
Dans Drag Race, ce qu'on ne sait pas quand on
regarde l'émission,
quand on regarde l'émission, c'est que les journées sont évidemment très longues, mais qu'on a très 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 peu de temps pour faire les choses. Tout va très vite, et en fait, on est en drag.
C'est l'école du drag.
Le soir,
ça nous forme à aller vite, ce qui en soi, après l'émission, est un gros point positif vu qu'on est amené à faire beaucoup beaucoup de drag.
Maintenant, je peux me maquiller en 45 minutes.
Ouais. Maintenant, du coup, vous avez 10 minutes. Voilà.
Normalement, tu te maquilles en combien de temps? Si dans un monde parfait.
Si j'ai dans le monde parfait, entre 2h30 3h.
Ah ouais, 3h, c'est bien, on se presse pas.
Toi aussi.
Ouais, c'est vraiment très bien, et c'est pas non plus trop long. Après, moi, je sais que le minimum pour que ça ressemble quand même à ce que j'aime faire, je crois que c'est 1h15.
Voilà.
En dessous, il y aura forcément quelque chose de moins bien.
Et donc, quand il y a des mini-challenges, c'est
Là, c'est même plus du make-up, c'est, de la... c'est du Pollock. Mais on se rend compte en faisant Drag Race qu'en fait, il y a beaucoup d'étapes qu'on fait dans le maquillage qui ne servent à rien et qu'au final, aller vite, ce n'est pas forcément plus mal.
C'est ça, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un moment où
le
mot « trust the process », fait confiance au processus, c'est très important. C'est que moi, au début, je voulais que chaque étape soit sublime, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut nettoyer à la fin et qui rendront à peu près le même résultat, et on gagne des fois des heures. Moi, je sais qu'au début, limite, je posais un RTT pour me maquiller, quoi. Je mettais 5 heures à me maquiller, c'était insupportable.
Je l'ai déjà fait ça.
Et en fait, avec le temps, tu peux pas. Donc
moi je peux pas prendre 5 heures parce qu'au bout de 2 heures, ma moustache elle repousse déjà.
Donc, voilà, pas les mêmes
problèmes. Je couvre la moustache au dernier moment.
C'est ça. Elle fait ses yeux, son front, et ensuite elle se rase et elle commence à se maquiller.
Comment vous gérez la protection du secret? Parce que, évidemment, l'idée c'est rien ne filtre, rien ne sort. Au bout de 3 jours de tournage, il y avait plein de TikTok avec rumored cast, French Drag Race.
Je crois qu'on a eu beaucoup de chance parce que même au plus fin fond des Reddit, des posts Telegram et compagnie, il y a quand même très peu de choses qui ont été spoilées, mises à part un peu le casting, et encore le casting n'était pas entier.
Ah, ouais, non, c'est vrai.
J'ai eu des surprises.
Ouais, il y a eu des surprises. On a eu des
surprises. Du coup, nous, de ce qu'on a vu, même des spoils internes, des spoils de, je sais pas, de challenge, de choses comme ça, il y a beaucoup de choses qui étaient fausses et c'était assez marrant à voir parce qu'au final, je trouve qu'on a été une des saisons qui a été le moins spoilée.
Ouais.
Et on a eu beaucoup de chance parce que je trouve que c'est intéressant justement d'avoir la surprise. Moi, j'adore la surprise. Déteste cette spoilie.
Les saisons américaines, il suffit de taper sur Google pour avoir l'info de tout ce qui se passe dans toute la saison. Nous, c'est quand même très bien gardé.
En fait, je pense qu'on a... tout le monde a intérêt, bien sûr, à ce que ce soit gardé, mais en même temps, le public a intérêt à avoir la surprise. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que des retournements de situation, que des gags, des trucs. C'est ce qui rend Drag Race aussi intéressant.
Et alors, vous avez dit, vous deux, vous vous connaissiez avant. Paloma, toi, quand tu as tourné ton film, Paloma, dedans, que j'ai regardé parce que je suis très professionnelle, sur France 3, j'ai regardé le replay.
T'as regardé le replay.
Dedans, on voit Cam qui apparaît, on voit aussi la grande dame qui est donc au casting. Donc, vous vous connaissiez, est-ce que vous connaissiez tout avant?
Quasi, je pense que nous trois, on était les plus...
Parce que, attends, je finis juste. Dans la version américaine, je veux dire, c'est gigantesque, les États-Unis, Chicago, New York, machin. Et... elles ne se connaissent pas toutes. Là, c'est vrai qu'on est sur un casting un peu plus parisien. Ouais. Donc, et c'est plus petit, le monde est petit, le monde des drags est petit. Est-ce que vous connaissiez toutes?
Moi, je connaissais toutes, et toi aussi. Je pense que la seule surprise qu'on a toutes eues, c'est Lova la Diva.
Ouais.
Et elle aussi, on
qui vient de Toulouse.
Mais qu'on ne connaissait pas, mais qui ne nous connaissait pas.
Oui, c'est
plus.
Ça. C'était assez étonnant. C'était un autre monde. Si on a l'impression qu'elle évolue pas.
Elle vient vraiment du milieu de la nuit, Ibiza, tout ça. Donc, c'est pas du tout.
Ah ouais?
Oui, elle vient vraiment des nightclubs. C'est vraiment une drague comme il y en avait dans les années 2000. Et elle
n'est
pas du tout réseaux sociaux. Donc, Cam, je ne sais même pas si elle te connaissait.
Non, elle ne me connaissait pas.
Non, c'est drôle.
Mais du coup, c'était assez marrant. Et moi, je voulais avoir des surprises. Donc, j'avoue que j'étais très content de la voir. Puisque, forcément, en France, on s'était clairement dit. Moi, dans ma tête, j'avais les Lady Queen. Et quand je suis arrivé, on a eu 2 surprises. Mais Lova la Diva et Ellipse, qui ne faisaient pas partie des pronostics. Mais que j'étais très content de voir, vu que je la connaissais très bien. On s'est déjà vu plusieurs fois sur Bordeaux. Mais je pense que de la saison. Paloma, la grande dame et moi, on se connaissait plutôt très bien toutes les trois. J'ai dormi chez la grande dame plein de fois quand j'ai cherché un appartement sur Paris. Donc il y avait vraiment une histoire. Commencer le drag.
On a
toutes
commencé en même temps.
Et je crois que pendant la conf de presse, Soa a dit qu'elle avait habité aussi avec la Big Bertha.
Oui. Bah Big Bertha et Soa, c'est deux très très bonnes amies.
Ouais, bah ça va, je la
donc c'est aussi pour ça peut-être que il y a que vous étiez en mode
sisters
parce qu'il y avait une connexion même avant.
C'est ça, je pense.
C'est plus dur d'être un
peu
bitchy.
On peut très facilement s'engueuler avec des gens qu'on connaît pas, alors que des gens qu'on connaît, c'est vrai qu'il y a forcément ce côté humain qui ressort directement.
Après, bon, Elisa et moi, on se connaît très bien, on s'engueule. Hein, mais...
Oui, mais pas... ça ne s'empêche pas qu'il n'y a pas de shade dans la saison.
Le truc, c'est que les États-Unis, non seulement c'est très très grand et elles se croisent jamais parce que c'est des pays, des États qui sont très loin les uns des autres, mais en plus de ça, les États-Unis, il y a une culture drag qui existe depuis très longtemps, ce qui fait que dans n'importe quelle grande ville des États-Unis, il y a des drag shows. Le fait est, c'est qu'à Paris, la culture drag est récente. Nous, on a une culture du cabaret plutôt, et les shows drag, c'est récent, et c'est surtout à Paris. Il y en a dans quelques villes de province, mais moi, c'est récent.
Moi, je me souviens, j'avais dit sur le tournage, c'est il y a beaucoup de parisiennes, mais comme toutes les parisiennes, personne n'est vraiment parisienne. Et quand on voit dans l'eau, par exemple, moi j'ai grandi en Ardèche et j'ai habité à Lyon pendant un moment, j'ai fait mes études à Lyon.
Paloma vient de Clermont-Ferrand.
Donc en fait, on est toutes on vient toutes de régions et on est venu à Paris principalement pour le travail. Et c'était plus parce que on cherchait du travail sur Paris que réellement.
La réalité, c'est que le drag, comme on disait tout à l'heure, c'est pas encore un métier où c'est facile de gagner sa vie. Donc, je peux comprendre que sortir de Paris, c'est encore plus difficile.
Clairement. Voilà. Donc, on espère que Drag Race France mettra en avant aussi justement ce côté-là dans toutes les régions et permettra.
Les produits de nos régions.
Les produits de nos régions, parce que clairement, nos régions ont du talent. Une fois de plus.
Si j'ai bien compris, après avoir regardé toutes les saisons américaines et de ce que tout le monde en dit, les anciens candidats, avant l'émission, vous avez des tenues à préparer. Vous ne savez pas précisément dans quel ordre, quel est le détail des runways, mais on vous demande plus ou moins de préparer des tenues.
Oui. Alors, on ne donnera pas les détails de tout ça.
Oui, c'est pas drôle d'avoir... Non, mais c'est bien qu'il y ait un peu de mystère autour de ça. Mais on a une liste, mais qui est déjà, c'est des intitulés qui sont vraiment
très généraux.
C'est vraiment très concis, ça pourrait être tout et n'importe quoi. Il y a des thèmes où on pourrait complètement partir dans le...
Ouais. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au moins, personne ne fait les mêmes choses. Et c'est ça que moi, je trouve très intéressant. Oui. Sur les runways, moi, je sais que c'est une partie que j'adore. Et j'adore à créer des choses et avoir l'idée des runways. Et je sais que justement, c'est ce qui est, je pense... On prend chacun beaucoup de plaisir à créer quelque chose et se détourner un peu du thème. Et pas faire quelque chose qui est trop terre à terre. Et justement
mais c'est une très grosse prépa, effectivement, c'est en très peu de temps.
Et sujet touchy, parce qu'on est français et qu'on n'aime pas parler d'argent, mais par exemple, si...
tu parles d'eux qui ont...
Non, mais par exemple, Lemon, Queen canadienne, qui a été dans UK vs. The World, qui est sortie la première, alors que pour moi, c'est la meilleure. Non, il y a Jujubee. Pour moi,
Mais c'était un scandale qu'elle soit éliminée.
Elle méritait pas de partir la première.
Parce que c'est le process du lipstick et tout.
Voilà, et ensuite... Et ensuite, elle a dit, j'avais investi 50 ou 60 000 dollars dans mes tenues. Bon, après, c'est le game aussi.
Après, c'est les Américaines.
Il en faut une qui sort en premier, ça fait partie du jeu.
Gottmik avait dit ça aussi.
A été dit. Il a été dit, elle n'a pas dépensé 60 000.
Combien on a dépensé, c'est peut-être pas très intéressant, surtout qu'on n'a pas toutes dépensé la même chose. Par contre, je pense que ce qui est commun à tout le groupe, et nous deux plus particulièrement, c'est qu'on a fait travailler des artisans français. Non, mais dans les autres versions, il y a une culture plus showgirl, plus Vegas. Nous, on a amené peut-être un savoir-faire français et un côté plus haute couture. Donc, on a amené un artisanat qui est coûteux et qui est.
C'est ça. Moi, je sais qu'il y a. Enfin, je travaille tout le temps avec des artistes français qui fabriquent du coup mes tenues sur mesure, etc. Je sais que j'ai voulu mettre en avant du coup l'artisanat français et c'était une volonté de notre part, Paloma et moi, de vraiment essayer au maximum de faire avec ce qu'on a en France, vu qu'on a des talents incroyables, que ce soit pour la perruquerie et pour la couture, qui mérite d'être mise en avant.
Sur les réseaux, depuis l'annonce, vous mettez vachement en avant aussi les personnes avec qui vous avez bossé. Moi, je regarde tout.
Mais moi, je trouve ça important. En fait, je vois toujours ça comme une collaboration. Donc moi, j'imagine beaucoup ce que je dessine, ce que je veux. Et ensuite, je vois ça comme une collaboration où les stylistes, les perruquiers m'aide à affiner l'idée et quand on le crée en fait c'est vraiment une collab et je sais que je leur ai toujours dit vous aurez jamais qu'un crédit en bas de l'image, vous aurez toujours une story explicative, des vidéos, des choses où j'explique vraiment les détails vu que je trouve qu'en fait c'est trop simple de juste montrer une belle tenue et les gens se rendent des fois pas compte du travail qu'il y a derrière et c'est ça aussi le drag, c'est aussi le travail qu'il y a derrière, l'imagination des tenues, c'est pas juste on claque des doigts on a la tenue.
L'autre jour t'as mis les dessins en story et tout, c'était très bien. Cette émission, vous l'avez vue 200 fois ailleurs. On connaît un peu les ficelles, non ? Est-ce qu'on arrive en connaissance de cause pour son personnage
On croit.
On croit ?
Je crois que...
C'est pas si différent que ce qu'on pensait. Mais le vivre, c'est autre chose.
Honnêtement, moi, je trouve que les choses se sont passées de manière très organique et j'ai pas l'impression qu'on a été dans une matrice ou quoi que ce soit.
T'as tout oublié quand t'es arrivé sur le tournage ?
Non, j'ai pas tout oublié. Bah, déjà, il faut prendre. Déjà, il y a un temps d'adaptation, il y a des caméras, on est dans un environnement qui est complètement hors de la réalité. C'est un moment un peu absurde. Mais je crois que c'est le. On, il faut avoir conscience à un moment qu'on est venu nous chercher aussi, on nous a choisi aussi pour ce qu'on est et on va pas essayer de raconter autre chose.
Quand on regarde l'émission, je sais qu'il y a un truc qu'on se dit, quand on regarde l'émission, on a l'impression de tout savoir faire, tout connaître, tout machin. Et en fait, bien sûr, le vivre, c'est très différent que de le voir. Mais cela étant, je veux dire, c'est bien sûr qu'il y a des choses qui nous étonnent et heureusement, parce que moi j'adore les surprises, mais ça reste bien sûr dans la globalité quelque chose qu'on a vu à la télé, mais c'est très différent. Je tiens à le souligner, c'est vraiment
plus jamais je ne critiquerai les nanas qui participent à l'émission et qui se plantent, parce que c'est tellement difficile et intense, et t'as beau savoir et être devant ton canapé à regarder l'émission et te dire ah moi à sa place j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, non,
parce qu'en fait
quand t'es sur en place tu...
Je pense qu'il y a beaucoup d'humains qui passent dans la vraie vie qu'on verra pas forcément à l'écran, des moments d'émotion que nous on ressentait énormément et qu'on ressent pas forcément en regardant, mais nous on le vit comme une aventure. Du coup il y a vraiment des moments très intenses, des moments très rigolos, des moments très tristes, et en fait ces moments là ça affecte forcément notre performance ou des moments dans l'émission, et je trouve ça très important. C'est ça qui rend justement l'émission intéressante et nous, notre aventure dans l'émission intéressante.
Donc vous étiez plusieurs à vous connaître, mais Cam notamment, si on va stocker ton Insta, ce qu'on fait de temps à autre.
Vous êtes remonté sur mes premiers drags dégueulasses.
Non, pas du tout. Si on regarde les commentaires, ça c'est ma passion, c'est regarder les commentaires des gens sous les photos. C'est vraiment un truc qui peut m'occuper des heures. Et quand t'as annoncé, on a vu beaucoup de noms qu'on connaissait de Queen américaine.
Yes.
Donc tu t'es un peu infiltré dans le milieu RuPaul's Drag Race.
En fait, du coup, depuis, ça fait bien sûr 4 ans à peu près que je fais du drag et j'ai toujours partagé ça sur les réseaux. Donc petit à petit, en fait, j'ai toujours fait des shootings très bien affiné, des looks au maximum de mes capacités, etc. Et je pense qu'en Amérique, ça a pas mal plu et il y a beaucoup de queens américaines très très connues, des gagnantes, etc., qui m'ont suivi. Et à chaque fois, c'était un peu une validation d'avoir un follow d'une drag queen que j'admirais. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont félicité du coup d'être dans Drag Race, qui attendaient que ça. J'ai Miss Cracker qui m'a reposté en story. Il y a vraiment beaucoup de gens que j'adorais, genre Aquaria, Detox, etc., qui ont commenté. Et c'est vrai que c'est toujours... très plaisant de se dire que toutes ces queens
Detox.
Clairement, par exemple,
la queen ultime.
Ah ouais.
Quand c'est mon modèle. Hein.
Quand j'étais à Los Angeles en novembre dernier, donc à l'annonce du casting de Drag Race France, il y a Kimchi par exemple qui m'a envoyé un message pour me dire est-ce que ça te dit de venir bruncher avec moi ? Donc elle nous a emmené bruncher, moi et mon mec. C'était assez hallucinant vu qu'elle, pour le coup, la première saison que j'ai regardée, c'est la saison 8. Et du coup, j'étais très fan de elle et Naomi Smalls, et savoir que en fait, au bout d'un moment, là, c'est fou parce que la boucle est bouclée.
Ah.
Et mais en fait, il y a beaucoup de choses qui se font naturellement avec le temps. Et je sais, je me souviens quand je regardais l'émission, je les idolâtrais beaucoup. Et avec le temps, en fait, quand on devient plus ou moins amis, c'est assez plaisant de vivre la chose. Quelques jours avant l'émission, il y a Gigi Good qui était sur Paris et on a bu un verre ensemble. Et elle m'a fait un débrief sur Drag Race en me disant voilà, c'est comme ça, fait. Enfin bref, elle m'a aidé.
T'as
en
eu
gros.
Des tips des queens US, quoi.
Je dirais pas des tips, mais disons, elle m'a soutenue.
Comme les anciennes Miss France qui briefent la nouvelle Miss France.
J'ai eu mon coach. Non, mais c'est vrai que c'était une assez bonne validation. J'étais content de voir qu'elles étaient aussi excitées que moi d'être dans Drag Race France.
Très bien, on enchaîne. Je veux parler d'un truc que t'as cité au tout début, mais t'as pas utilisé le même mot que moi. J'ai parlé de house. Il y a des house. Donc, il y a les...
Ah, les Davenport.
Les Davenport, les Michaels, les O'Hara. Et alors, en plus, c'est pas du tout clair parce que, par exemple, Eureka O'Hara, elle est pas chez les O'Hara. Raja O'Hara fait partie des Davenport. Les Davenport, c'est comme les Kardashians, elles sont 50. Il y en a la moitié qui sont dans Drag Race. Bref, et après, il y a Elisa Edwards, House of Edwards, qui a que des nanas qui ne s'appellent pas Edwards, comme Plastic Tiara, ouais. Shangela.
Oui.
Vous faites partie. Ah, donc, pour expliquer, en gros, il y a des drag mothers. Tu peux expliquer, Mathieu ?
C'est un peu un concept de famille, en fait, de drag. En fait, ça s'est créé. Alors, ça va être très vulgairement expliqué, mais en gros, c'est un peu de chosen family. Tu choisis un peu ta famille, puisque dans l'idée, ta famille de sang t'a rejeté. Donc, tu vas trouver une nouvelle famille au sein de la communauté LGBT et notamment au sein du milieu drag. Et voilà, c'est un peu un regroupement artistique, comme un label de mode.
Ok, parle, très bonne comparaison.
Alors, okay. À l'origine, ça vient surtout de la ballroom. Ça oui. vient de la okay. scène ballroom à New York dans les années 80, où justement la communauté afro-américaine LGBTQIA+ se réunissait pour faire des concours. Ouais. Voilà.
Il y avait ce système de chosen family.
C'est un peu attribué ce concept après, mais c'est à la base ça vient de la ballroom.
Mais c'est vrai ce que tu dis, ce chosen family, c'est un peu ça l'idée d'une house. Je pense que même si genre je fais pas partie d'une house et toi non plus, je crois pas, Paloma.
Non.
Non, mais on évolue forcément avec des amis et même si c'est pas une house, on a tous des amis drag avec qui on sort tout le temps.
Qui est dans une house, je crois.
C'est quoi sa house?
Fugly.
Fugly.
Ah oui, comme Alice Psycho.
Oui, elle est avec Alice Psycho dans okay. la House of Ugly. Je crois que c'est la seule, hein, parce que Bertha
n'est
ouais.
pas
dans une house. Non.
Ouais. Ouais, c'est moins répandu en France. Hein.
C'est moins répandu, mais disons qu'on sort tout ensemble.
Il y a quelques houses françaises très connues, mais c'est vrai que c'est quand même un truc très français. On est très individuel. Dans le...
Individualiste même.
Ouais, individualiste, ouais. Enfin, moi, je viens de la troupe, je viens du théâtre, donc pour moi, ça me paraît naturel, mais...
Bah moi je me dis toujours, j'ai juste des amis, tu vois, et je sors oui, avec eux, et oui, ils sont drag, mais après, c'est pas pourtant qu'on fait une house. Oui. Parce que moi, je me suis toujours dit, alors, c'est un peu contradictoire avec ce que je fais sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas le temps de m'occuper de quelqu'un et de lui apprendre à faire le drag, etc. Je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent, sois ma drag mother et tout, j'ai pas le temps.
Ah non, c'est vrai?
Oui, mais du coup, je partage ça sur YouTube et c'est tout.
J'ai un fils drag king qui s'appelle Sergei, mais c'est vrai que je lui ai inculqué des trucs et puis il se débrouille maintenant, mais. Enfin, moi, je fais pas du drag pour reproduire des codes de l'hétéronormatif, des couples hétéros. Enfin, tu vois, c'est pas mon
c'est
but,
pas
quoi,
d'avoir
ouais. des enfants. Mais je trouve ça important que ça existe.
Ouais. Cam Paloma, je reviens à vous tout à l'heure parce qu'on n'a pas beaucoup entendu Elisa encore. Je vais lui donner la parole. Sinon, à la prochaine soirée des Folivores, il y a encore des inconnus qui vont me dire « T'es trop méchante avec elle dans le podcast ». Donc, Elisa, prends le
c'était
micro.
C'était pas les inconnus?
Bah si, c'était un inconnu.
Non.
Il nous écoute certainement, on l'embrasse. Donc en avril, avec Elisa, on s'est offert quelques jours de vacances à Los Angeles. Vous le savez, j'espère, parce que vous avez écouté notre épisode spécial Hollywood. Épisode dans lequel nous sommes allés au Manoir de Charms sur les bons conseils de Cam.
Et
oui.
Mais on n'a pas réussi.
On n'a pas réussi à rentrer.
Mais elles n'ont pas réussi à rentrer. Ouais. J'ai réussi à rentrer en drague.
Ouais, bravo.
Photos sur Instagram.
Allez voir les photos et voilà, surtout le vlog.
Nous, on a juste fait un shooting.
On a fait un shooting.
Devant.
Donc au bout de 12 heures de vol, nous atterrissons. Je suis en train de faire la queue pour passer la douane quand j'entends une voix de mec qui dit « Hello G !» Et là, alors, il y a vraiment que les gens qui me connaissent personnellement qui m'appellent Hello G. Et là, je croise un mec que je connais, qui d'ailleurs a bossé sur Drag Race France, hein, le monde est vraiment petit, je ne dirais pas qui c'est. Et il me dit « Mais t'es en vacances ici, il faut trop qu'on aille chez Mickey's, c'est un bar à West Hollywood. Tous les lundis, il y a les queens de Drag Race qui performent. » Et dans l'heure, j'ai réservé nos places. Et donc le lundi suivant,
non,
avec
non.
Elisa...
Ça s'est pas passé
ça
comme
ça. Ça s'est pas passé comme ça, j'ai fait une version courte parce que c'est un podcast très long.
Si, ça s'est pas passé comme
alors
ça.
En fait, je vous explique la vraie version. Parce qu'apparemment, je peux pas édulcorer. C'était le jour de la finale de la saison 14 et il y avait une viewing party avec Valentina et j'ai dit il faut qu'on y aille.
Donc moi, on me monte la tête, on me dit tu
je
vas
dis,
voir,
on y
ça
va,
va être
ça va être.
Fou.
Non, mais attends, non, il y avait la viewing party le vendredi soir ou jeudi soir, je sais plus, de la finale. Évidemment, c'était complet le jour où on a atterri. Évidemment, j'étais vénère. Et du coup, on y est allés tous ensemble le lundi. Voilà, ça, c'est la version longue, avec la déception. Et donc, on s'est retrouvés avec ce jeune homme, son mec, et des copains à moi qui étaient aussi à LA, au Mickey's Bar. J'étais évidemment ravie d'être là. Elisa, c'était ton premier show. Et tout à l'heure, on en a reparlé, on s'est un peu engueulé. Parce qu'on
non, c'était pas mon premier show.
Ok.
Normalement, il pose cette question. Est-ce que c'est votre premier show?
Ah bon, ils nous l'ont pas posé.
Il y avait Morgan.
Alors oui, c'est hosté par Morgan McMichaels, qui a été dans la saison
2 et All-Stars 3.
All-Stars.
Si, je me souviens, elle a posé la question parce que j'étais, je pense, une des seules à lever la main en mode « oui !»
T'en gardes quel souvenir?
Bah alors, c'est un souvenir un peu compliqué puisqu'évidemment, je me suis mise à côté de la seule personne alcoolisée,
non, y en avait
torse
d'autres.
Nu. Oui, mais alors lui, il était bien alcoolisé.
Drogué, tu peux le dire.
Ouais, voilà, drogué, torse nu avec un chapeau de cow-boy et qui me forçait à tipser. Alors,
des liasses de billets.
C'est ça. Et donc, je ne pouvais pas faire un seul geste sans qu'il me donne de l'argent pour que je... C'était devenu mon
double. Il te donne de l'argent, mais c'est parfait, ça.
Il lui donnait de l'argent et du poppers.
C'est ça, il m'a proposé du poppers. Et l'argent, évidemment, je ne l'ai pas gardé, donc je l'ai jeté.
Le poppers, oui.
C'était la première fois que... Oui, par contre, le poppers. C'était la première fois que je tipsais quelqu'un. J'ai aimé le geste.
Ah, mais on a fait des boulettes de billets de 1$ toute la soirée.
Tout ça pour dire, du coup, qu'il faut tipser vos queens, même françaises.
Exactement. Et moi, c'est une question. Voilà.
Mais on peut pas lancer des pièces
voilà,
de 1€.
L'argent.
Comment ça se passe en France ?
Avec Big Bertha, on lui a dit ça. On lui a dit, est-ce que tu veux qu'on te balance des pièces de 2€
mais non,
mais
des billets de 5.
Que... Bah ouais, mais, on a,
mais non, maintenant, on a inventé un... Enfin, j'ai rien inventé du tout, c'est pas moi, mais il y a un truc qui a été inventé dans les soirées drag à Paris, enfin en France.
Et ça se trouve
c'est les drag dollars, tu échanges de l'argent à l'entrée contre
un faux billet de 1€.
Que tu vas... Que la queen à la fin ira échanger contre de l'argent.
Oui,
et ça marche très bien.
Parce qu'il paraît, les queens américaines, quand elles performent en France, elles disent « Ah, les Français, ils tipsent pas, c'est relou. »
Ben oui, parce
enfin,
que
les Européens
les tips, ça marche très bien. Et c'est une très, très grosse partie du cachet. Voire des fois, ça double cachet ou triple cachet. Et c'est pour ça qu'en France, par exemple, en Amérique, tu ne vas pas à un show drag avec minimum 10$ en billets de 1$ dans ta poche. C'est genre, c'est pas possible. C'est un manque de respect, c'est vraiment mal vu.
Bah nous on est arrivé un peu les mains dans les poches.
Oui, mais vous savez
mais notre contact secret qui travaille à Drag Race France, il est arrivé en disant non mais c'est bon, il est venu avec des éventails de billets, il nous a dit tiens.
Me mettez pas la honte.
Ouais. Ouais, c'était vraiment ça. Et donc ce soir-là nous avons vu, tu t'en rappelles pas ?
Évidemment que non.
Alors j'ai fait la liste.
Je connaissais juste Jasmine, mais qui ne.
Alors il y avait Jasmine Masters qui était dans le public, qui était out of drag.
Iconique.
Il y avait Kimora Black, Pearl. Jessica Wilde, Mariah Paris Balenciaga, June Jambalaya, et donc Jasmine Masters dans le public. Et ensuite, une fois que le show était fini, est arrivé Out of Drag pour boire des coups à Dore Delano.
Wow.
Donc c'était une bonne session quand même. On
a vu
du beau monde. On a
du
vu
beau
du beau monde.
Mais chez Mickey, il y a toujours du beau monde.
Des très bonnes queens. Oui, mais Morgan, parce que c'est la patronne de la côte ouest.
C'est quand même c'est la patronne.
Michaels. Elle est. Franchement, moi, je l'ai trouvée géniale.
Elle fait les meilleurs lip syncs du monde.
C'est ça qui m'a le plus impressionné.
Elle a fait que des chansons un peu dépressives. Genre,
mais c'est pour ça que ça m'a plu.
Oui, voilà. Alors, si vous avez écouté l'épisode d'avant, l'épisode sur Diams, on en parle. De moi, mon rejet pour les chansons dépressives de type Lana Del Rey et de l'amour d'Elisa pour ces mêmes chansons. Et en fait, Morgan McMichaels n'a lip-syncé que des chansons comme ça, alors que le reste, je m'en rappelle plus. C'était il y a deux mois.
C'était
il y a
moi, j'ai un petit peu oublié.
Je m'en rappelle plus.
Il y avait du Jennifer Lopez, je me souviens très bien.
Oui, oui. Et il y avait Whitney Houston.
Exactement.
Ouais. Non, franchement, c'était une belle soirée.
C'était une belle soirée, mais comme on m'a vanté quelque chose d'extraordinaire...
Ah oui, faut pas dire que c'est extra, sinon on va être déçu.
J'ai été un petit peu déçue. Et le mec à côté de moi m'a complètement saoulée. Donc effectivement, mais j'étais contente de le faire, j'étais ravie. C'est la première fois que je tipsais quelqu'un, voilà.
Ben, on vous attend à nos shows.
Ben, volontiers, premier rang, avec les drag dollars. J'en profite justement, petit tour de table, votre queen préf. Ever. Donc toi tu nous as dit Detox, mais
non, il bah, y a Jinx. J'en ai trois.
Vas-y.
Pour moi, la Sainte Trinité, c'est Detox, Sacha Velour et Katia.
Ok. Ah, Mathieu, horrible. En attendant.
C'est horrible parce que j'ai l'impression de choisir entre
ton père et ta mère.
Ouais, vraiment. J'allais dire entre Rihanna et Britney Spears, tu vois, mais.
Britney.
Non, Rihanna évidemment. Non. Écoutez l'épisode sur Rihanna.
Écoutez l'épisode sur Rihanna et l'épisode sur Britney.
Oui, c'est vrai.
Toutes nos queens.
Moi, je dirais Sacha Velour, franchement. Elle est aussi drôle que belle et avant-gardiste, donc vraiment, ça
et
me
elle
parle.
Elle a réinventé le drag.
Ouais, vraiment.
Ce drag a changé depuis Sacha Velour.
J'adorerais Nina West dans sa saison. Je la trouvais mais vraiment à crever de rire. Et je dirais aussi peut-être, parce que j'ai pas envie de choisir, chez Coulet quand même.
Ouais, ouais.
All right.
Cam.
Moi, je vais faire pas que des américaines.
Vas-y, surprends-nous.
Je les aime beaucoup, on est un peu amis. J'adore Blue Hydrangea, Miss Envy Peru et Miss Cracker.
Okay.
Et Trixie Mattel aussi.
Ah oui.
J'arrête là.
Oui, son nom n'est pas sorti. Elisa, des deux épisodes que t'as vus, t'as préféré qui?
ma drague préférée, c'est Régine Marquise des Anges.
Ah, merci.
Bah, tu pourras dire Paloma et Camille.
Voilà.
Bientôt.
Et moi, puisque vous me posez la question...
Ah, je suis sûre qu'on peut deviner pour toi.
On n'en a pas déjà parlé ?
Non,
enfin,
mais...
Non, on se connaît pas.
Alissa Edwards.
Pas du tout, je dis tout le temps.
Ouais, Alissa Edwards.
Alissa Edwards, c'est une
Alors.
Jujubi et Katia.
Avec les chats, surtout.
Cam et Paloma, je dis rien, mais Mathieu, on se connaît quand même un petit peu, et ça me déçoit énormément, parce que je dis tout le temps la même chose. Moi, j'encourage mes sœurs asiatiques. Donc, j'adore Manila... j'adore Raja, j'adore Kimchi, j'adore Jujubi. Après, j'ai un énorme truc sur La Tris Royale.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, je l'adore.
Excuse de Beauty.
Qui d'autre j'adore ?
Toi, t'aimes bien Violette,
non ? Et si, si, non. Non, en vrai, il y en a une que j'aime beaucoup parce qu'elle me fait vraiment beaucoup rire, c'est Trinity the Tech.
Ah oui, je l'aime.
Ah ouais. Génial.
Elle est vraiment
American
elle est
high
géniale.
Drag.
Elle est géniale.
Genre, ses looks dans
All-Star. Sa tête, j'adore. Cam Paloma, vous aimeriez laisser quoi de votre passage dans Drag Race ?
Derrière vous ?
J'allais dire, mes pins, ils peuvent pas être détruits.
Il y a mon ambition personnelle et il y a tout ce qui compte, tout ce qu'il y a autour en général, aussi, parce que moi j'ai envie de changer un peu pas l'image du drag, mais j'aimerais bien amener le drag ailleurs aussi, l'amener au théâtre, l'amener au cinéma, l'amener
Moi j'ai toujours dit que le personnage drag soit incontournable partout. Il y a une soirée, il faut un truc, il y a un événement, il faut qu'il y ait...
C'est ce que tu m'as dit quand on a fait l'interview pour le magazine.
C'était mon
dernière.
Moi je sais que j'ai que ce soit dans le cinéma partout, enfin, et que ce soit pas juste de l'amusement, ouais, ou de l'entertaining, que ce soit vraiment quelque chose de général et qu'on en ait besoin partout.
J'aimerais parce qu'il y a plein de types de drag. Un talk show ou un truc comme ça en drag, ouais, j'adorerais.
Un podcast
Non, mais même une émission de télé, genre le RuPaul Show, moi j'adorerais faire ça. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui est important, c'est que cette saison, elle change les choses aussi pour en les France. Autres, parce qu'il y a tellement de travail à faire. Tellement de travail à faire pour que les conditions de travail soient confortables. Et même pour que le public qui n'y connaît rien s'ouvre à ça, quoi.
Oui, c'est ça. Parce qu'au final, une fois qu'on connaît, on a eu... ce que je trouve bien dans Drag Race, c'est qu'on développe aussi pourquoi on le fait et pas seulement ce qu'on fait. Et c'est très important parce qu'en fait, on tombe pas dans le drag comme ça, par magie. Il y a souvent une raison ou une vie qui a fait qu'on fait du drag, qu'on est drag queen. Et justement, c'est important parce que dans Drag Race, on passe aussi ce genre de message et pas seulement... quelque chose d'entertaining et joli à regarder. Donc c'est cool, il y a un mélange de tout ça. Et je pense que ce sera des messages très importants. Et toutes les queens du casting ont quelque chose à dire de différent, ouais, et qui apporte quelque chose à la communauté. Donc je pense que c'est très important et j'ai hâte que les gens reçoivent ces messages. Et les...
Oui, c'est Daphné, ouais, qui a dit dans une interview, elle a dit un truc que j'ai trouvé très juste, très simple. Elle a dit, c'est hyper divertissant, les gens vont s'amuser en regardant l'épisode et à la fin, ils auront été éduqués aussi.
C'est ça, il y aura une morale. C'est comme les contes.
C'est comme les fables de la fontaine.
Mais il y a quelque chose à la fin, quoi.
Simone avec un Y, la queen qui a gagné la saison 13. Non,
oui,
12, c'est...
13. Faut pas dire qui c'est, parce que...
Ah, non, mais de toute façon...
Ah oui, c'est Jada Essence-Hall. Dans une interview, Simone, elle a dit que le meilleur conseil qu'elle a reçu, il vient de RuPaul. Il lui a dit que la force, the power, le mot original, qu'elle a en elle quand elle est en drag, elle l'a aussi quand elle est out of drag. Est-ce que ça vous parle ?
Very true. Je pense qu'il n'y a rien de plus vrai. C'est très compliqué au début, parce que le drag, au début, moi, je sais que c'est vraiment le truc.
On
y va à fond. Et en fait, limite, on peut se laisser un peu de côté. On se dit, dans tous les cas, moi, je sais que, par exemple, je sortais, et c'est presque encore le cas, mais je travaille dessus, et toi aussi, d'ailleurs, ouais, Paloma, c'est que je sortais que en drag, et j'étais jamais allé en boîte, je suis jamais sorti autre chose qu'en drag, j'ai l'impression d'être inutile, enfin d'avoir rien d'intéressant. Mais d'avoir rien à dire, tu vois, en mec, alors qu'en drag, t'as toujours quelque chose à dire.
Ouais.
Et en plus, t'as cette carapace qui fait que tu te sens fière de toi et forte.
Les gens sont impressionnés.
Et les gens sont impressionnés.
Alors que quand on est un mec, bon, bah, pas forcément.
On te regarde moins.
Ouais. Et en fait, au final, c'est un personnage, mais c'est un personnage que moi, je vois comme une extension de moi-même plus qu'un personnage. Ce qui veut dire que cette extension de moi-même est moi-même. Et du coup, logiquement, en mec, je suis censé pouvoir être aussi sûr de moi qu'en drag, ce qui n'est pas forcément évident, mais qui a un travail à faire, à mon avis, nécessaire et qui peut nous apporter beaucoup plus tard, quoi.
Ah, vraiment. Moi, j'étais... Paloma, j'ai toujours dit, pour moi, c'est la version sociable de Hugo. Je m'appelle Hugo dans la vie.
Very true.
Et en fait, maintenant, je me rends compte que Paloma m'a appris à être plus sociable, à plus m'amuser.
Et je pense qu'une fois qu'on est sûr, enfin, on n'est jamais sûr à 100%, mais une fois qu'on est sûr dans notre drag, ça nous aide aussi à être sûr en mec. Parce qu'on apprécie d'autant plus, une fois, moi je sais que du coup, faire du drag à fond, ça me fait d'autant plus apprécier moi quand je suis un mec et ce que je vis quand je suis un mec. Et j'ai hâte. Je me souviens avant, quand j'avais en 37 heures par exemple, j'attendais qu'une seule chose, c'est d'être en drag en fin de semaine, etc. et de travailler, de faire du drag. Et là maintenant, je suis très impatient de faire du drag, mais je suis aussi très impatient de me démaquiller.
De ne plus faire de drag.
Et de plus faire du drag, de retrouver mon mec et d'aller à Disneyland et voilà.
Attention, question hyper sérieuse. Il y a quelques jours, les lycéens de France ont passé le bac philo. Il y a un sujet qui est sorti, qui pour moi s'applique énormément à l'émission. C'était « Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ?» Vous n'avez pas 4 heures, vous avez genre 20
secondes. Marrant, j'ai eu un sujet quasiment similaire, moi. Le transforme, oui, mais surtout, je pense que les pratiques artistiques, elles donnent avoir une autre vision du monde. c'est pas le monde n'est pas transformé par l'art, mais je pense que l'art permet de voir le monde différemment et de plein de manières
Et de le faire évoluer, mais vers quelque chose de positif. Parce que évoluer, on peut évoluer en négatif, mais en l'art, globalement, quand on s'y intéresse, peu importe quel art c'est, hein, pas spécialement que le drag, je pense que ça ouvre les yeux et l'ouvre les chakras à beaucoup de gens et permet de voir, comme tu dis, le monde d'une autre manière et en général d'une manière positive et avoir une meilleure appréhension des choses aussi.
Merci. Et dans la plus pure tradition de L Débrief, je vous ai préparé un quiz. L Débrief. Quand on a préparé cet épisode avec Mathieu, je lui ai dit que je voulais faire un quiz et on s'est dit peut-être qu'un quiz RuPaul Drag Race, c'était...
Trop obvious.
Ouais, trop obvious. Et en plus, on est là pour parler de la France, même si j'avoue, on a parlé énormément des États-Unis. Ensuite, on s'est dit qu'on allait faire un quiz culture drag et on s'est dit non, ça va peut-être être pas assez fun pour les auditeurs. Et du coup...
Meilleure idée d'Élodie Petit, franchement, elle s'est donnée.
C'est un quiz queen dans le sens le plus large du terme. Donc, on ne parle pas forcément de drag queen. Donc, là, on va tester vos rêves. Il y a vraiment un peu de tout. Il y a un peu de tout, vous allez voir. C'est à celui qui crie le plus fort.
Ouais.
Enfin, parfois en galère, donc vous êtes prêtes?
Faut crier la réponse ou faut crier moi?
Non, tu cries la réponse.
Okay. Ouais, c'est un peu sauvage.
Je pense que Mathieu, tu vas l'avoir la première. Enfin, je ne connais pas leur rêve, mais je te connais.
Uh-huh.
Dans la série Glee, quelle queen a un bébé avec Puckerman?
Queenie.
Queen Fabray.
Oui, Queen Fabray, bonne réponse de Mathieu.
Tu sais,
j'ai Queen Fabray.
Tu m'as dit Ugly et j'avais Ugly Betty dans la tête et j'étais en mode mais qui a
Moi c'est une de mes séries préférées, je même pas.
La leader qui est enceinte dans la
saison. Je sais. Je suis fan. Moi j'étais Rachel Berry donc insupportable.
Moi aussi.
J'étais Santana Lopez.
La blonde, on est
d'accord. Non, en vrai j'étais Brittany S. Spears.
Ah non, Queenie c'est dans American Horror Story, je mélange tout.
Ah, ça aurait fait une bonne question, aussi, ça aurait fait une bonne question. Oui. Quelle est la queen qui a le plus de robes au monde?
Queen Elizabeth.
Bonne réponse de Mathieu, réponse de Mathieu.
Tellement vrai, et de chapeau aussi.
T'allais dire
coup.
Qui?
Et de sac.
J'allais dire Mariah Carey.
Ce n'est pas une queen.
On n'a pas été la compter.
Et oui, la reine d'Angleterre.
C'est une queen, bah oui.
J'ai honte de mes questions. Une queen, ses perruques ont coûté un bras à la France.
Bernard Chirac. Ah, Marie-Antoinette!
Bonne réponse! Mais il faut participer!
Putain, ouais.
En fait, je...
Ouais, bravo Mathieu. Ouais. Marie-Antoinette, quelle queen a eu un biopic en 2018?
En 2018?
Bianca.
Lady Di? Bah, Queen Elizabeth aussi.
Non, bah, Lady Di, c'est récent.
Avec 4 Oscars.
Ah, bah oui, c'est. Queen, c'est le groupe. C'est.
Bonne réponse! Oui. C'est le groupe Queen, Freddie Mercury!
C'est Freddie Mercury!
Rhapsody,
connecté dans ce podcast!
Ah, bah, si j'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que c'était honteux.
Ah, oui.
Elle est bien, elle est très bien.
En fait, je vais répondre Queen. À chaque fois, il faut répondre Queen et ça marche une façon de.
Quel Queen est le personnage à 4 roues préféré des enfants?
Cars.
Non, j'en sais rien.
C'est ça?
Queen.
Flash McQueen! Flash McQueen! Pas de réponse de Mathieu!
Wow.
Non, mais c'est tellement hors sujet pour nous.
Ah, mais c'est 12 coups de midi.
Ah, mais on est sur les queens. Ah, on a dit qu'on était sur les queens.
J'ai oublié de débrancher mon cerveau.
Là, la dernière, elle est pour toi, ma puce.
Uh-huh.
Qui a dit, je vous la fais en anglais, langue originale de la citation.
D'accord.
Every woman has a secret. Mine happens to be a little bigger. I'm a man.
Alice Edwards.
Bonne réponse
mais
de
oui
Cam. Alissa Edwards, queen de la saison 5 de RuPaul's Drag Race.
Alissa Secret.
Alissa Edwards.
Oui, c'est ça.
Bravo, Mathieu, tu as remporté ce quiz.
Oh, merci, mais vous savez que je déteste perdre.
Oh la
merde.
J'aurais préféré un quiz, Mylène Farm.
Merci. Bon,
La prochaine fois. On finit comme chaque semaine par la question des lecteurs. Et cette semaine, la question ne s'adresse pas à la rédaction, mais en direct au Queen, puisque c'est Damien M qui m'a écrit personnellement sur Instagram et qui m'a dit, je cite, j'adore aller en soirée en Queen, mais je chausse du 44 et j'ai un mal fou à trouver des jolis talents à
ma taille. On est les bonnes Queen.
Pouvez-vous demander leurs bonnes adresses au Queen? Bien sûr, Damien. Paloma, tu choses du combien?
46.
Oh
oui, alors, elle est grande.
Est-ce que tu vas sur Las Vegas Divas?
Non.
Moi, j'achète chez Only Maker.
Same.
C'est le meilleur chaussier pour les grands.
Ils font toutes les tailles, ça tient très bien et c'est chic.
Et pour rendre Only Maker, c'est sur plein de. Il y a un site et tu peux le trouver partout. Et mon astuce pour rendre ça chic et couture, c'est de strasser les chaussures.
C'est la queen du strassage de chaussures.
Je strasse toutes mes
comme
chaussures.
Comme vous l'avez vu dans ce premier épisode.
Voilà. Ok. Et toi, tu choisis du combien?
On ne pose pas ce genre de questions.
D'accord. Mais tu vas
44.
Sur le même site.
Non, je fais 44. Mais oui, du coup, je fais aussi sur Only Maker. Je pense que c'est la meilleure rapport qualité-prix. Et choix. Il n'y a pas que des escarpins vernis, quoi.
Très bien. Merci beaucoup. C'est la fin de cette...
Non. Avant
on
ça,
rester.
On leur... on leur dit peut-être qu'on a un shooting spécial pour elle qui a été fait, oui. etc.
Si vous saviez comme ça nous rend heureuses.
Voilà. C'est vrai,
bah, ouais, comme on a investi.
On a investi, hein. Vous allez voir les.
Oui, vous pourrez le voir sur. Vous pourrez le voir sur l'Instagram duel, sur le site duel.
Un joli shooting ouais. de Paloma et moi-même sur un thème colorimétrique très elle. Donc on a fait l'effort
de Gélasquin et des perruques de Pariser.
Voilà, deux artistes français incroyables.
Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode de Elle Débrief dédié à Drag Race France et je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, parlez-en autour de vous, mettez des étoiles, laissez des commentaires et surtout partagez-le sur les réseaux sociaux en nous taguant et en taguant Cam et Paloma. Cam, Paloma, merci beaucoup d'être venu vous confier au micro de Elle. Vous qui nous écoutez, n'oubliez pas d'acheter votre Elle en kiosque et de vous rendre sur Elle.fr, lire chaque semaine le débrief de l'épisode de Drag Race France qu'on fera le lendemain de chaque diffusion. Sauf aujourd'hui, hein, c'est dimanche. Et on se donne rendez-vous pour un nouveau podcast la semaine prochaine. Salut Elisa, salut Mathieu, salut les queers.
Salut
Elle débrief.
Elle débrief. Retrouvez tous les épisodes de Elle débrief en ligne sur les plateformes.
Élodie Petit et Elisa Casson de Elle
décryptent l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite.
Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.